Vous aimez les choses qui prennent leur temps. Vous aimez les jolis plans. Vous aimez regarder longtemps par la fenêtre en vous posant des questions sur la vie. Ça fait 2 ans que vous êtes au chômage, alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche. Et oui, vous l'avez compris, dans Parlons Péloche, aujourd'hui, il sera question du film contemplatif. Le film contemplatif est un genre cinématographique qui met l'accent sur les longues prises, qui propose souvent des films minimalistes, observationnels et avec peu ou pas de récits. Ce genre est également parfois appelé slow cinéma outre-Atlantique. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un film contemplatif. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre en donnant nos impressions sur 3 films contemplatifs sortis sur ces 2 dernières années. Et c'est après avoir parlé de nos films contemplatifs de référence que vous aurez droit à un truc encore plus incompréhensible que la retranscription d'un rêve de Terrence Malick sous acide avec la chronique d'Antoine. Mais pour parler des films contemplatifs autour de la table, vous la connaissez sûrement, car ça fait maintenant plus de 80 numéros que l'on aime contempler sa beauté pendant nos longues heures d'enregistrement. C'est Antoine, bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Et vous le connaissez sûrement car il a réalisé un film de sensibilisation au recyclage des ordures ménagères appelé The Tree Selective of Life. C'est Tristan, bonsoir Tristan.
Bonsoir Thomas.
Vous le connaissez sûrement car il a déclaré que Camping 2 était un film contempastis. C'est David, bonsoir David.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Ouais, on est fatigué, on fait ce qu'on peut. Vous la connaissez sûrement car avant de travailler chez Parlons Péloche, elle a brillamment tenu un salon de coiffure intitulé Contemplatif CBA.
Bonsoir,
Béa.
Bonsoir Thomas.
Et enfin, vous le connaissez sûrement car mélanger des images qui n'ont aucun sens pendant une durée de 2 heures avec des musiques expérimentales, ça peut décrire de manière floue ce qu'est le film contemplatif, mais ça décrit de manière très précise ce qu'est sa vie sexuelle. C'est Fouad, bonsoir Fouad.
Salut Thomas.
Et bien voilà, l'intro c'est fait, maintenant suspendons un peu le temps, prenons le temps de comprendre les choses avec la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais.
Tas de beaux yeux, tu sais.
Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'est le film contemplatif à travers les yeux de nos chroniqueurs et isoler les mots-clés propres à ce style cinématographique pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à aller voir un film contemplatif au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, le film contemplatif, c'est grosso modo des longues prises, du minimalisme, de l'observation et parfois une suspension de narration. Mais précisons un peu tout cela avec mes chroniqueurs. Pour vous, autour de la table, qu'est-ce qui symbolise ce genre? J'ai envie, moi, de commencer par Tristan, parce que je pense que ce soir, la sélection des films, c'est un peu son top 3, presque, son top 3 des 2 dernières années. Est-ce que je me trompe? Tristan de Baroni.
Non, si, c'est vraiment tout ce que j'aime. Moi, ce que je veux retrouver dans un film contemplatif, c'est du plan fixe, tu vois. Un plan d'une demi-heure sur un champ de patates en Autriche. Moi, je trouve ça magnifique.
Là, je suis séduit. Là, je dis oui.
Non, mais souvent, le plan fixe, il est accompagné d'une bande-son et d'une BO magnifique. Donc, ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas qu'il y ait peu de dialogue. Et je trouve que ça, le film contemplatif a aussi un rythme qui est spécial. Ouais. Il y a beaucoup de périodes de calme. Il y a beaucoup de périodes d'étranges, en fait, dans le film.
Et on verra à quoi ça peut servir, hein. Pendant toute l'émission, on verra quel est l'intérêt d'utiliser ça.
Mais du coup, je trouve que l'espace, on le verra dans l'émission, l'espace, c'est un peu le lieu parfait, quoi, pour faire un film contemplatif, parce que c'est rempli de vide. Et du coup, est-ce que c'est pas l'endroit parfait, quoi.
Oh, bah, c'est dingue, Tristan, parce que tu ne connais pas les questions que je vais poser, mais il y aura cette question pendant l'émission. La science-fiction est-elle le meilleur genre pour le contemplatif?
Mais quand tu dis l'espace, tu parles de la bagnole ou?
Très bonne vanne, David. J'étais juste très étonné que tu ouvres pas sur une vanne de cul. T'es vraiment ouvert sur une vanne plutôt passe-partout.
Mais non,
plutôt
ouais, c'est ça. Non censuré.
J'ai décidé, je l'annonce, aucune vanne de cul dans cet épisode.
Ouh là, ça me paraît intenable, mais en tout cas,
sacré challenge.
On verra bien.
Ça crée du teasing et j'aime ça. Ça crée du teasing pour la suite de l'émission, qui sera peut-être pas facile à écouter pour ceux qui aiment pas ce genre, hein, Béa. Alors donc le rythme. T'as parlé effectivement de la bande son et du fait que y avait des images fortes et ça fait effectivement partie. Hein, on parle d'une dramaturgie qui est visuelle et la dramaturgie sonore aussi est très forte parce que tout ça construit le discours, notamment via le montage. Hein. C'est ce que tu as dit par rapport au rythme, et c'est la manière justement de faire de la narration dans le contemplatif. C'est du montage lié à une dramaturgie visuelle et sonore forte. C'est... Est-ce que tu avais fini, Tristan, sur...
J'ai fini, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Hein.
C'est vrai, tu as presque fait le tour du sujet, et c'est bien là ce qui caractérise les bons chroniqueurs, n'est-ce pas, Tristan ? Autre bon chroniqueur, Fouad, est-ce que toi, tu aimes ce genre déjà ? Je me demande, parce que certains disent que le film contemplatif, c'est le cinéma à l'état pur.
Ouais, je suis pas loin de penser ça. Moi, j'apprécie beaucoup.
Enfin, cinéma pur plutôt.
J'apprécie beaucoup ce genre parce que justement, comme disait Tristan, c'est que c'est un film qui, c'est un genre de cinéma qui se donne avant tout à voir. Oui. C'est des images avant tout, un peu de son. Moi, j'aime quand il n'y a pas de dialogue du tout, idéalement, ou très très peu, mais où tout passe. Tout passe par la beauté des images, par la beauté des cadres, et effectivement, ça ramène le cinéma à sa plus pure expression, c'est-à-dire le montage des images, et avec une touche en plus qui est que, bon, vous connaissez tous cet état, l'état dans lequel on divague, on est dans nos pensées.
Ouais.
Hein, tu scotches pendant 5 minutes et tu divagues. En fait, le cinéma contemplatif, c'est un cinéma qui essaye de reconstituer cet état mental. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on cherche à reconstituer cet état-là à l'image, mais aussi pour le spectateur. Je pense, par exemple, on aura un film dans lequel on a une scène de 4 minutes d'une actrice qui mange une tarte. Et ben, l'objectif du réalisateur à ce moment-là, c'était de se dire, eh ben, on va laisser le spectateur regarder ça. Et au bout d'un moment, quand il a vu ce qu'il avait à voir, bah, lui-même va commencer à se construire des images autour de ce qu'il est en train de voir, et il va aller plus loin que la pellicule qu'on lui offre. C'est ça aussi l'un des atouts du cinéma contemplatif.
Et quitte à m'ennuyer un peu, j'ai pas de problème avec ça. Ça ne me dérange pas. À m'ennuyer un petit peu. Me dire, bon, tiens, c'est un peu long quand même. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du trip, en fait.
Ouais. Et c'est parfois, certains films sont même l'éloge de l'ennui. Hein. C'est un peu l'idée de retranscrire. Tu parlais de retranscrire le fait de divaguer, mais ça peut aussi retranscrire le fait de s'ennuyer. Et j'aime à le dire, dans la vie, on s'ennuie plus souvent que on va ouvrir des tombeaux dans une arche perdue, par exemple. Hein. La vie, c'est plus de l'ennui que des cherches au trésor.
C'est clair.
Donc finalement,
ça prend plus de temps.
Donc finalement, le film contemplatif touche du droit quelque chose. Béatrice, je t'aime beaucoup. Je tiens à te le dire. Tu as fait quelques infidélités à Parlons Péloche récemment, mais bon, hein, je ne t'en veux pas. Béatrice, c'est ta dernière émission. Qu'est-ce que tu penses du film contemplatif?
Déjà, t'as commencé par dire que j'aimais pas ce genre, ce qui est pas vrai. C'est soit j'aime, soit je déteste. Par contre, quand je déteste.
Bah, elle déteste souvent aussi.
Je pensais que c'était le cas, et en fait, non, j'ai énormément de références de films, comme vous le verrez en fin d'émission. Faudra me faire parler en dernier. Mais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est un cinéma où, pour le coup, c'est des films à voir en salle. C'est du grand cinéma, c'est des belles images, c'est des beaux plans. C'est du grand cinéma. Mais soit le sujet me touche et me concerne, et là, je peux me laisser embarquer. Mais faut vraiment que le peu de dialogue qui y ait soit pertinent. Je préfère limite voir un film qui a pas de dialogue plutôt que d'avoir, et c'est ça, et on va le voir dans certains films qu'on aura ce soir. Et je me dis, je préfère qu'on dise rien. Il y a déjà tout sur l'image. Il y a pas besoin d'en rajouter. Donc, je trouve que il y a un côté souvent un peu qui alourdit un peu tout. Et alors. Après, je trouve que c'est un type de cinéma où ça dépend vraiment du moment. De savoir vers quoi tu vas, parce que ça peut vite être désarçonnant. Et aussi, effectivement, voir le moment où tu vas voir ce film. Je pense qu'il faut être dans une bonne disposition psychologique pour les voir. Mais alors, le problème que j'ai, par contre, c'est que si, parce que je vous dis, quand je déteste vraiment, ça m'énerve. Et du coup, c'est rare que je donne une seconde chance à un film qui m'a fait passer un mauvais moment, parce que je vais.
Surtout quand il est long.
En plus, souvent, mais c'est parce que, en fait, je vais me focaliser sur des petits agacements, sur une réplique ou qui vient de nulle part, et donc voilà. Donc, je suis embêtée sur ce genre parce que, en fait, je le trouve quand même très éclectique malgré tout, en fait.
Et c'est important que tu parles de l'éclectisme parce qu'aujourd'hui, on va couvrir une partie du genre et pas tout le genre. Il faut le noter parce qu'il y a dans la branche du cinéma contemplatif une partie qui est du cinéma non narratif. Et aujourd'hui, dans notre sélection, on n'aura pas ça. Donc le cinéma non narratif, on peut penser à Enter the Void par exemple de Gaspard Noé, ce genre de film, ça, on aura l'occasion de faire un épisode entier de Parlons Péloche sur le cinéma non narratif. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au cinéma contemplatif. Narratif.
Avec des bagnoles tuning.
Voilà, bon, par exemple.
On
voilà.
s'est dit que ça rentrait, quoi.
On a voulu mixer deux genres. Antoine, toi, est-ce que tu aimes ce genre? Je pense que dans la sélection, il y a des petites choses que tu apprécies. Me trompe-je?
Oh, bah, j'aime bien. Non, il y a des choses que j'aime énormément dans ce genre et il y a des choses que je trouve fabuleuses. C'est que j'arrive à faire les meilleures siestes du monde devant ce genre de film.
Ah, okay.
C'est que certains films ont tendance à m'endormir, notamment Les Champs de Patates et globalement le cinéma de Terrence Malick en général. Mais ça, c'est mon avis.
Parce que c'est pas ton truc.
J'accroche moins.
Ouais. Donc Terrence Malick, sauf ton sommeil, quoi. Sauf
ouais, voilà, ouais. Moi qui suis insomniaque, parfois un bon Terrence Malick, ça me permet de repartir à zéro.
C'est vrai que tu souffres de cette maladie, effectivement. Terrence Malick, qui a été remboursé par la Sécu, apparemment, Terrence Malick.
J'aimerais bien.
Il y a une loi qui est en cours là-dessus.
J'aimerais bien, s'il me payait mon abonnement UGC, je serais content.
Voilà, par exemple.
Non, mais vous l'avez déjà dit, un peu ce que je retrouve dans le cinéma, c'est vraiment cette idée de faire passer, effectivement, une histoire uniquement par les images. Et on sait, nous, improvisateurs...
De renom.
Que parfois, le silence, ça fait du bien, en fait, dans une histoire. Et ça a du bon de parfois pas être que dans le dialogue et de savoir aussi raconter les choses par l'image, parce que c'est au final le but du cinéma, ouais. C'est de raconter une histoire par l'image. Et il y a des choses intéressantes, et il y a beaucoup de films contemplatifs que j'aime beaucoup, mais il y a aussi d'autres films qui effectivement m'endorment et m'ennuient un peu. Et je suis d'accord avec Béa sur le fait qu'il faut être dans une très bonne disposition pour les voir. Et...
Il y a le chat de Béa qui est en train de raconter aussi l'histoire avec l'image.
Ah, il est fan de Terrence Malick.
Terrence Frolick.
Il arrête pas de miauler dans le micro.
Ça marche presque, mais...
Si, mais c'est mieux que mon jeu.
Mais tu parlais de justement, c'était l'essence du cinéma, et beaucoup disent que c'est le cinéma à l'état pur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que quand on réalise un film contemplatif, on va traiter du mouvement, de la décomposition du mouvement, la forme, la lumière, et tout ça, ça sera exprimé de façon brute. Et au final, on essaie de retranscrire vraiment la réalité à travers la caméra, et c'est ça la base du cinéma, ni plus ni moins. Hein. Le premier film des Frères Lumière, hein, n'est-ce pas, qui est sorti à Lyon, pardon, je me suis un peu emballé.
Tout va bien, Tataï, tout va bien.
Je sais pas, des fois, je prends des voix, ça va pas du tout. Il fait chaud dans cet appartement, je n'en peux plus. Et cette émission Parlons Péloche, je n'en peux plus non plus, hein. David, non, je plaisante, bien entendu, c'est ce qui me tient en vie. Hein. David, est-ce que tu vas bien déjà? C'est une vraie question qu'on oublie de se poser par ces temps qui courent. Et aussi, est-ce que tu aimes le film Contemplatouf? David.
Alors,
attends, c'est pas le même genre.
Évidemment que je vais bien parce que je suis avec vous.
Ah, voilà. T'es le seul qui m'aime encore dans l'équipe, David, on va pas se mentir.
Ah ouais, mais moi, je
il est tout le temps neutre, ce connard.
Ouais,
voilà, par exemple.
Moi, pour l'instant, j'observe et je recueille des infos, mais alors quand ça va tomber, ça va faire super mal.
T'es là, tapis dans l'ombre.
Et ouais.
C'est pour ça que tu t'es fait virer de partout. Ouais.
Et le gâteau en passe de me faire virer de mon boulot, mais bon.
Ah, mais c'est pas grave. Tu sais, David, que j'ai deux coups de fil à passer et tu retrouves une fonction où tu veux. Tu le sais. J'ai le bras long. Ah. Et ça se sait de plus en plus dans le métier. J'inquiète tout le monde. Oui.
J'ai allé faire une blague par rapport à ton bras long.
Ouais.
Et je l'ai fait pas.
Et Matt, tu l'as pas fait. C'est vrai qu'on a un peu affaire à un nouveau David.
Voilà. Mais c'est comme si tu l'avais déjà fait, en fait. Ouais.
On l'a tous fait dans notre tête.
Ça, on va tendre des perches à David toute l'émission.
On y a tous
pensé. Que par exemple, Béa qui a dit on l'a tous dans notre tête, David aurait pu rebondir là-dessus. Mais il ne l'a pas fait. Bravo David. David, qu'est-ce qu'on pense de contemplatif, tout ça, Terrence Malick et la clique?
Non. Alors, moi, on va pas se mentir, je pars plus facilement vers le film populaire, tu vois, le film facile, vraiment le film de divertissement, c'est surtout ça qui me porte. Ouais. Tu vois, quand tu rentres chez toi un lundi soir après une journée de boulot, t'as pas envie de te taper un queue de 3 heures.
Non.
Il est passé hier sur Arte, personne n'a envie de voir ça, tu vois.
Alors qu'un bon rien à déclarer avec Danny Boone.
mais le pire, c'est ça, tu vois. Il y a des fois vraiment dans ma vie où je vais plutôt aller choisir un truc que j'ai déjà vu 3-4 fois, que je sais qui est complètement pourri, mais parce que j'ai envie de me débrancher le cerveau.
Ouais.
Et le problème dans ma vie, c'est que j'ai plus souvent envie de me débrancher le cerveau que de me le brancher, en fait. Ouais. Mais après, moi, j'adore qu'un film soit maître de son ambiance, qui pose ses tons, qui pose ses enjeux. Et du coup, certains de mes films préférés sont vraiment ultra contemplatifs. Parce que si t'es happé et si t'es passionné par un sujet, eh ben, ça passe comme une lettre à la poste.
Ouais.
Mais du coup, comme, moi, je rejoins, Antoine et Béa, ça dépend vraiment de l'état où t'es, en fait. Moi, tu vois, j'ai été voir 2-3 fois Tree of Life en salle. Et je l'ai jamais apprécié.
Béa te juge.
Au même moment. Oui, j'ai vu Béa qui va se faire un AVC en direct. Non, mais la première fois, je l'ai adoré. La deuxième fois, j'étais pas dans le bon état.
Ouais.
J'ai détesté. Et du coup, j'étais le revoir une troisième fois pour comprendre si, pour
si
me faire vraiment
perdu
un avis,
une heure de ta vie.
Ah, mais c'était l'époque où j'étais étudiant et puceau, donc j'avais que ça à foutre.
Ah, bah, ça y est. Mais je connais bien Terrence, moi, personnellement, c'est un copain. Oui. Et ben, je pense que c'est ce qu'il souhaite aussi sur ses films.
Que les gens viennent 3 fois le voir.
Voilà, ça fait plus d'entrée. Non, mais que les sentiments soient pas aussi simples que j'ai aimé, mais pas aimé, je te mets 4 sur 5 sur Allociné, terminé, bonsoir. Non,
mais tu vois,
le cinéma, c'est
les films,
c'est pas ça.
Les films contemplatifs, c'est des films que tu les regardes avec des soucis ou des trucs comme ça, forcément, ça va te revenir en tête et tu vas jamais apprécier le film comme il faudrait que tu l'apprécies. Et donc, du coup, en ce sens-là, c'est des films qui sont très fragiles. Et donc, du coup, il faut les chérir.
Ouais.
Parce que c'est justement des films qui sont très... Et donc, du coup... Je vais te faire une comparaison pourrave, mais c'est un peu comme si tu vas au fast-food et
comme
tu vas dans...
Comme une bonne sodomie,
pardon.
David
remets ton pantalon, David.
T'as craqué au bout de 7 minutes.
Non, mais... Putain de fiche. Un plat de poisson aux épinards.
Ouais.
J'ai la flemme de bouffer ça.
Ouais.
Ça, je préfère
aller...
Pour
l'instant, je vois pas Terrence Malick, mais
ok. Ou un gros steak. Mais quand je vais manger un super bon plat aux épinards, aux poissons, super bien préparé, je vais me dire... Il faudrait que j'en mange plus souvent parce que c'est super bon en fait.
Ah,
et
ouais.
Tu vois, c'est un peu ça quoi, le film contemplatif pour moi. C'est faudrait que je m'y mette un peu plus souvent. Faudrait que je m'intéresse un peu plus. Mais je suis souvent rattrapé par Danny Boone en fait.
Ah bah oui. En tout cas, on a fait un joli tour du sujet. On pouvait rajouter pas mal de choses. On le verra tout au long de notre épisode. C'est pourquoi faire appel au contemplatif finalement, hein, au-delà d'avoir cet amour du beau plan. C'est aussi un bon moyen de montrer un caractère de notre personnage, parce que parfois dans les films qu'on va voir aujourd'hui, le fait de faire appel au contemplatif ne dure pas tout le film, mais c'est juste comme ça inséré dans une œuvre de fiction, et ça permet souvent de nous montrer par exemple son errance. Ça se fait très bien. On pense à un film qui a pas mal divisé chez Parlons Péloche, Under the Silver Lake, où là clairement c'est un recours au genre contemplatif pour symboliser une errance. On peut penser à des films qui nous ont plus plu, comme Elephant par exemple. Elephant, on comprend que l'être est perdu grâce à l'utilisation du contemplatif. Je voulais dire quelque chose d'intéressant sur le contemplatif aussi, c'est que, écoutez bien cette phrase, elle va nous guider pendant tout l'épisode, l'image contemplative ne juge pas, mais démontre. Pas mal ça, hein, ça va bien, un petit silence, non?
Oui, c'est bien, c'est bien.
Non, mais c'est-à-dire que ça filme l'homme et le monde et l'évolution de l'homme dans son monde. Et ça cherche pas à montrer autre chose quand le film contemplatif est réussi. Voilà, c'est un des objectifs. Et j'allais dire un dernier point qui va nous intéresser puisqu'on traite du genre. Les historiens du cinéma, parce qu'ils existent, ces types, je sais pas où ils sont, peut-être à l'UGC de Villeneuve-d'Ascq, on sait pas où ils sont les mecs, mais ils existent. Pour eux, c'est flou comme genre, c'est un peu abstrait, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des tentatives un petit peu faites par des réalisateurs dans leur coin, mais c'est pas un vrai genre, un vrai mouvement. C'est plus c'est pas encore complètement accepté dans l'histoire du cinéma, le film contemplatif. Et dernier point, parce qu'il y a beaucoup de points là-dessus, et je préfère éviter la fronde de tous les tweetos qui viennent à dire « tu parles de film contemplatif, mais tu parles pas du documentaire ». Il existe le documentaire contemplatif, très peu de gens sur Twitter viendraient râler. Hein. Mais il existe ce genre qui est sans narration, ni personnage, sans dialogue, sans voix off, comme des espèces d'opéras filmés dont tout le discours se construit par un subtil alliage de l'image, du son et du montage. Donc un petit peu ce qu'on a décrit, mais pour le documentaire, c'est peut-être encore le summum du contemplatif. Et ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera plus tard. Vraiment pas sûr. Mais de quoi on va parler tout de suite? D'une sélection
si,
de trois films.
Je vais en parler un peu, moi, tu vas voir.
Ah, Tristan. Et une fois de plus, tu ne me déçois pas. Bienvenue dans l'aventure Parlons Péloche. On passe tout de suite à la deuxième séquence de l'émission. Le nom de Zeus.
Nom de Zeus.
Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission où on fait le tour d'horizon de trois films contemplatifs sortis sur ces deux dernières années pour voir ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui. On écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser. Quand ça, Béa ?
Ce soir.
Parfait.
Je suis le commandant Mike Bride.
I had a dream.
et je m'efforce de joindre le docteur Clifford McBride.
And the trees.
C'est le fils du docteur qui vous parle.
Fly away like birds to the mountains.
We build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone.
Alors, vous l'avez entendu aujourd'hui, il sera question de Une vie cachée, la villa des... On sait pas, Ad Astra et Ghost Story. J'ai chaud, les amis. On commence donc par Une vie cachée de Terrence Malick Bentala. Alors, inspiré de Ferrero de la France, Jagger Slaver, paysan, ouais, ça va pas du tout. Paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Bah, pourquoi il fait pas? Tu es pas gentil? Reconnu coupable de trahison par le régiment hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fanny, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ses héros méconnus. Effectivement, ses héros sont méconnus, mais tout ça est une histoire vraie. Quel a été le matériau de base pour pouvoir adapter cette histoire? Quel élément il avait pour la mettre à l'écran?
La Seconde Guerre mondiale.
Pas mal. Les lettres, BA, c'est ça. Ouais. Mais la Seconde Guerre mondiale, ça marchait aussi, Tristan. Effectivement, les lettres ont été retrouvées et ont donné lieu à un livre. À un livre, donc les correspondances qu'on a un petit peu dans le film d'ailleurs, entre les deux acteurs principaux. Ça a donné lieu à un livre et du coup, Terrence Malick s'est dit « Eh ben, frère, j'ai envie de mettre cette histoire à l'écran. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un film formidable, mais je n'ai rien à penser. C'est Fouad qui doit penser pour moi en ce moment. Une vie cachée. Est-ce que tu as aimé Fouad? Je suis sûr que oui.
Oui, ouais. Comment tu sais?
Bah, je c'est sais bien. Pas. Je l'ai vu dans tes yeux, on commence à se connaître. Comment ça va?
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore Terrence Malick, manière générale. J'aime beaucoup ce cinéaste. Il est vraiment passionnant. C'est un Texan. Un Texan d'origine iranienne, hein, Terrence Malick, hein, il faut le préciser. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est la
c'est
guerre.
C'est fou, hein, parce que David Lowery aussi est Texan.
Et ouais, c'est
et
ce que j'ai
Chuck
aimé.
Chuck Norris aussi. C'est ça. Tout ce qui est contemplatif, c'est Texan.
Non, non, mais dans la sélection de ce soir, il y a deux Texans sur trois.
Il y a quoi. Du flingue, quoi.
Ouais, c'est marrant. non, mais est-ce que vivre dans la nature, grandir dans les grands espaces, est-ce que ça te pousse à devenir contemplatif?
C'est pas impossible.
Et j'ai beaucoup aimé parce que on retrouve toute la patte de Terrence Malick, c'est-à-dire la nature, l'être humain au milieu de la nature, l'eau, l'air,
l'œil de poisson. Fichaille.
ça focale très particulière. C'est la dimension un peu spirituelle. C'est tout Malick au service d'une histoire qui est assez touchante parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale.
J'aime bien le assez touchant. C'est très touchant.
Ouais,
on va aller plus loin.
C'est
touchant.
Oh, ouais, non, c'est super touchant. Mais c'est du point de vue de l'ennemi entre guillemets, c'est du point de vue du camp autrichien.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, du point de vue d'une famille de paysans et du point de vue d'un couple. Et c'est une super histoire d'amour. Et c'est le mec. Quel choix va-t-il faire? Est-ce qu'il va préserver sa famille ou bien être fidèle à ses convictions? Et c'est ça qui est beau. Et alors moi, ce que j'adore avec ce film, c'est que toute la patte de Terrence Malick, moi j'aime beaucoup comment il fait le portrait d'une communauté paysanne en fait. Ouais. C'est presque un documentaire sur la vie paysanne de l'Autriche.
Surtout à un moment où il y a un conflit mondial que bah, globalement t'es en train de labourer des champs,
c'est
t'en bats les couilles quoi. Enfin,
exactement, voilà. C'est la guerre du point de vue des paysans. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. on l'a pas beaucoup beaucoup vu et en plus j'adore.
C'est une émission striptease pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est presque ça.
Et puis j'adore comment. Tu veux aller au marché de Bourinville?
Ouais, je dois aller traire les vaches. Tu vois, c'est la vie quoi. C'est leur préoccupation paysanne très importante et j'adore comment ils filment ce havre de paix. En fait, c'est filmé comme un peu le jardin d'Éden, comme le paradis quoi. Et la guerre va souiller cet endroit idyllique, d'abord dans les têtes, dans les mentalités, puis après dans les corps. Et ça, c'est assez bouleversant. Hein. C'est un espèce de paradis perdu, quoi. Hein.
C'est le vrai village. Hein, c'est le vrai village. Hein.
Ah, en plus, c'est le vrai village. Génial.
La vraie maison.
Carrément.
Ouais, c'est incroyable.
C'est les vraies personnes à la vraie époque.
C'est un docu.
Bah, et tu vois, c'est tellement bien fait la reconstitution que t'as vraiment l'impression d'être à l'époque.
Ouais,
quoi.
Ouais,
et comme toujours chez Malick, c'est hypnotisant. C'est hypnotique. T'es là, tu scotches. Tu vois un mec qui fait du vélo sur une route de campagne et tu trouves ça magnifique. Ouais. Tu trouves ça génial. Des petites filles qui jouent dans les champs, c'est génial, quoi.
Et je défie quiconque, parce que des gens aiment pas le cinéma de Terrence Malick. Moi-même, je sais pas dire si j'aime vraiment ce cinéma-là, mais pour ce film, je défie quiconque de ne pas trouver ça beau. Moi, je dis, tu mets pause à n'importe quel plan, et c'est joli. Après, on peut ne pas aimer le fait que ce soit long, le rythme particulier, mais en tout cas, c'est très beau. Je pense que Tristan, qui est féru de tout, mais de photos... Tu t'es régalé, là, hein?
Ah bah là, je peux te dire que j'ai envie d'acheter un lopin de terre en Autriche. Hein. Non, mais comme a dit Fouad, tu frises, quoi. En fait, tu te laisses bercer par décors qui sont majestueux. T'as des couchers de soleil, mais enfin, t'as des trucs, c'est incroyable. Bah, l'histoire est dingue. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir autant les pétoches que ce mec-là de voir le facteur arriver tous les matins.
Ouais.
Enfin, au pire, toi, tu reçois un catalogue La Redoute, quoi.
Ouais,
donc,
ouais,
sauf que lui...
Ou
lui, il reçoit une lettre pour aller se battre
aux
côtés des nazis, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, ça, d'un point de vue postal.
Et ce qui est horrible, c'est que c'est injuste aussi. Enfin, c'est affreux parce qu'il devient la honte du village. Et,
les gens
lui crachent dessus, mais t'as envie, ça, c'est énervant, quoi.
Après, les autres ont pas un film de Terrence Malick.
Ah, c'est clair.
Qui leur est dédié.
Alors après, moi, c'est celui des trois où j'ai ressenti le plus de longueur.
Ouais.
Je pense que c'est une longueur nécessaire parce que pour le coup, t'as un objectif. Enfin, il y a l'attente de quelque chose du coup. Du coup, tu ressens le temps encore plus que lui et ça fait monter un peu la pression en fait.
Ouais.
Donc je pense que c'est nécessaire. Même si, comme dit Fouad, lui, il a envie d'ennui. Bah, je pense que là, c'est un ennui nécessaire.
C'était vraiment top.
Ouais, comme tu dis, puis on a peur. On est régi par la peur, finalement. C'est pas le cas de tous les films contemplatifs et des films de Terrence Malick, notamment.
C'est ça. Et c'est un peu long, hein. Je sais plus combien.
Il fait 3 heures.
Ouais.
Il fait 3 heures.
Ah. Ouais.
Mais c'est magnifique.
Un peu.
Je connaissais pas l'Autriche comme ça. Alors, je sais pas.
Ouais,
je pense qu'il a filmé directement là-bas, mais c'est incroyable.
Ouais.
Et en plus, il donne un caractère intime à cette guerre. C'est que la guerre, c'est pas que des colonels qui poussent des Playmobil sur des cartes, qui font des grands plans, que des chars d'assaut. Ce sont des familles brisées, quoi. Ce sont des familles brisées, des communautés brisées.
Je trouve que la 7e compagnie le montre très bien aussi. J'aime beaucoup le dire. Mais c'est vrai, en plus, mais pas du tout de la même manière, on est d'accord.
T'as pas tort.
J'aime bien montrer que les gens normaux étaient dépassés par ce conflit qui les regardait pas du tout. Et ça arrive encore aujourd'hui à notre époque. Et voilà, c'est pénible, le petit mot pour un truc horrible. Antoine, toi sur ce film. Est-ce que t'as dormi ou est-ce que...
Du coup, j'ai regardé en deux fois parce que 3 heures, c'est un peu long et je me suis endormi la première fois. Mais je suis d'accord avec vous, c'est magnifique. Je suis d'accord, la nature, elle est incroyable. Je veux dire, ce ciel d'orage qui pointe, ça c'est vrai. Et je l'ai vu. Alors, il y a Ad Astra aussi dans les sélections. Ouais. J'ai regardé juste après Ad Astra et j'étais en mode, en fait, ça fait du bien de voir en fait de la vraie nature. Ça fait longtemps et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps au cinéma que j'ai pas vu de la...
Carrément.
Une vraie ambiance de nature, vraiment un truc, ils ont tourné, il faisait moche. Point barre.
Est-ce que t'es jamais allé sur la Lune, toi?
Pardon, Tristan.
Deux, trois fois, pas plus.
Je trouve effectivement très beau et autre. Je suis assez d'accord sur l'histoire, cette injustice ou autre, mais j'avoue qu'en 3 heures, je me suis un peu ennuyé parce que... Et pas forcément dans le bon sens. Moi, j'estime aussi que l'ennui, c'est un moyen de faire de la création, tu vois, d'imaginer. Mais c'était de l'ennui où j'imaginais pas ce qui allait arriver à lui, mais plutôt ce que j'avais mangé le soir.
Donc
c'était pas bon, ça m'a déconnecté du film.
Et, t'avais mangé quoi, du coup?
Bah écoute, si tu veux savoir, j'ai fait des tagliatelles.
Quoi? Je veux savoir.
Sérieux,
parce que si c'est des
carbonara, s'il vous plaît.
Sans rien, tagliatelles.
J'ai fait des tagliatelles, monsieur Marmignon, et je ne veux pas qu'on revienne là-dessus.
C'est tout. Et du coup, cette histoire m'a pas tant touché que ça. C'est
un monstre.
Je suis pas tant un monstre. En fait, c'est parce que aussi.
Laissez-le parler.
Oui, bah, il mérite d'être emprisonné, on est d'accord.
Non, mais il respecte pas le régime, bordel. Non,
et la liste de Schindler, moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça marrant, ces petits personnages.
C'est parce qu'en fait, tout le fait, donc, il est emprisonné. Et ce qu'il fait tenir, globalement, au-delà des lettres, c'est aussi ses convictions. J'ai beau regarder, à chaque fois, je le sentais plus lui aussi détaché, déconnecté, et je le voyais pas dans l'horreur, plus comme une sorte d'acceptation.
Mais c'est parce que c'est son choix. Forcément, mais la mise en scène ne t'a pas touché. Enfin, en tout cas, la façon.
D'une certaine manière, mais après, effectivement, ça reste beau. Et voilà, c'est un petit ennui, c'est un film que je trouve un peu long, mais qui, je pense, est quand même sympa à voir.
Je me souviens.
C'est sympa à voir.
Je suis vraiment normand, hein. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Le plein milieu, c'est la suite.
Après le big deal de la gaffe, ça passe bien.
Ça passe bien, ouais. C'est,
mais avant TPMP, un Malik.
Mais tu parles de quelque chose de sympa à voir et de beau. Moi, je me souviens, j'étais avec Béa et Antoine, je crois, à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes au cinéma. On était là. Et quand il y a eu les 10 secondes du Terrence Malick, mais rien que ça, j'étais convaincu. En tout cas, en termes de beauté visuelle, je trouve ça, c'est un film totalement à part. Et c'est pas juste un fisheye, comme j'aime dire à rire, non. C'est plus complexe que ça. Et comme je dis, chaque plan est joli. Il y a aussi une manière, hein, au-delà de filmer, une manière de mettre en scène. Par exemple, le fait de quasiment jamais utiliser de lumière artificielle, c'est ce que Terrence Malick a choisi de faire. Et du coup, d'attendre vraiment qu'il soit.
Voilà, il lui aurait fallu des gros spots, hein, mec. l'artifice.
Mais là, mais clairement, voilà, il a attendu qu'il soit 17h pour filmer une porte. Et ça, des fois, ça sert à rien et on se la touche un peu. Là, je trouve que dans ce film-là, c'était important de le faire. En tout cas, ça a un rendu visuel inégalable. Béa, qui va peut-être être dans la tendance d'Antoine.
Comment te dire ?
Ouais.
Ouais. En fait, je me méfiais, hein, que je ne l'ai pas vu au ciné.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir quand même que Tree of Life, c'est un de mes pires souvenirs de cinéma. Donc, j'avoue que Terrence Malick... j'ai plutôt en tête quelqu'un qui représente typiquement tout ce qui m'énerve dans certains types de films.
Ouais.
Forcément, visuellement, évidemment que je vais pas te dire que c'est pas beau. Évidemment que moi aussi j'ai envie d'aller faire un tour en Autriche, bien sûr. Mais je sais pas, je sais, c'est le traitement que je trouve extrêmement lourd. Moi, c'est la voix off. Je suis désolée, c'est pas passé. Alors je comprends puisque son matériau de base c'est les lettres, d'accord. Mais pour moi, il y avait tellement déjà de quoi faire justement avec toute sa maîtrise visuelle.
Je trouve que ça surligne un peu trop.
Pour moi, ça surligne beaucoup trop déjà. Alors après, vous l'avez dit, le sujet. Moi, j'aime beaucoup le sujet. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est le sujet, il est fort. Il est alors évidemment pas joyeux. Mais du coup, voilà, le mec, il en rajoute. Alors lui, c'est un philosophe à la base. Il connaît super bien. Il a plein de références bibliques et tout. Donc il en met à tout va. Et en fait, ça surligne. Et en fait, vous qui faites de l'impro aussi, il y a pour moi, il y a plein de fois où c'était à la manière du théâtre contemporain en impro, quoi. Et donc le ciel est bleu. Qui sommes-nous? Elles t'ont fait du mal avec des mots. Je suis désolée, dans les 4 phrases que j'ai dit, il y en a 2 qui sont du film, quoi. Enfin, ok, je les sors du contexte, mais non. Enfin, c'est voilà, il y a quelque chose que je trouve. Enfin, c'était un chemin de croix pour ce pauvre homme, et c'était un peu un chemin de croix pour moi aussi, quoi.
Oh, c'est beau, c'est une belle conclusion en tout cas. Vous êtes embauchée, Madame Jumel, au cahier du cinéma. Je vais finir par David.
Oui. Non, mais par contre, juste, je voulais rajouter, je suis d'accord avec Antoine, en fait. Mais à part, effectivement, me donner envie d'aller en Autriche et remettre aussi en question notre amitié, Thomas, eh ben, ça m'a pas touchée.
Ouais.
Enfin, ça m'a, je suis restée en dehors du sujet
Ouais, donc t'as été convaincu d'aller en Autriche, comme tu l'aurais été par un petit film Marmara à la fin des amours de texte. Vous avez gagné un hôtel resort Marmara à Vienne.
Non, non, mais c'est le traitement. Et je te dis, je n'ai pas vu. Alors après, c'est pas non plus un cinéaste avec une filmo très très longue, hein, mais
bah en durée si, mais en
ah oui en durée oui,
ces derniers temps il a beaucoup tourné, en fait. Tourné hein. Ouais,
mais c'est rare qu'il en sorte comme ça de d'un coup quoi, donc et bon je crois que je suis pas fan quoi.
David, du coup je t'ai volontairement fait terminer parce que je crois hein, en étant allé voir ton petit profil Sens Critique que t'es plutôt la personne qui de prime abord va pas forcément être en kiff là-dessus, mais qui finalement a eu un petit peu de plaisir. Me trompe-je ?
Disons que, pour faire la petite blague tout de suite, je me suis dit, c'est un peu grand angle le film. Donc je me suis dit, est-ce que Terrence Malick est-il inspiré par Jean-Marie Poiré ? Oui ou non ? On ne le saura jamais.
Je pense que c'est fort probable.
Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on ressent parfaitement l'héritage des anges gardiens dans le film.
Mais ah, oui. J'ai lu un interview de Terrence Malick dans Science et Vie Junior où il en parlait longuement.
Science et Vie Junior. Déjà, le montage, il est dingue. Je me dis, le nombre de plans qu'il a dû tourner, comme tu disais, attendre une journée pour juste filmer une porte, et enfin, ça, c'est hallucinant dans le film.
Pourtant, le tournage n'a pas duré très longtemps.
Ah ouais, parce que pourtant, c'est dingue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans qui durent très longtemps, en fait, au final. Ouais. C'est très lent, mais.
Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il y a quand même un rythme, hein.
Ouais, et en fait, je me suis pas ennuyé du tout. Et en plus, il te fait un petit montage avec les films de vacances d'Adolphe, tout ça. Donc, t'as toujours des moments où tu t'intéresses un peu plus, tu vois.
C'est vrai qu'il y a.
Toi, ce que t'aimes, c'est qu'il magnifie un peu les nazis, donc, ça te plaît.
Oui. C'est vraiment ce que j'ai adoré dans le film.
Non. Et dans le cinéma en général.
Et dans la vie. Et, c'est vraiment un film. Où on t'explique qu'il vaut mieux subir l'injustice qu'en être la cause. C'est un film sur le sacrifice, un film sur l'amour absolu, jusqu'où on va pour sa foi et ses croyances. Donc je trouve que à partir de là, le film, il est somptueux, il est d'une élégance folle, mais ça me parle pas. Moi, ça me parle pas parce que comme dans Silence de Scorsese ou comme dans Rencontre du troisième type, moi j'ai du mal avec le concept de donner sa vie pour sa croyance, donner sa vie pour sa foi, et moi je resterai toujours du côté de l'humain. Donc à partir du moment où le mec abandonne sa famille et laisse tomber toute sa vie juste parce qu'il croit en Dieu, tu vois. Moi, ça me parle pas alors, je le comprends. Il pourrait accepter son choix. Enfin, alors, je dis ça, ça va sonner connard et en plus, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Moi, je comprends plus le choix du personnage de Tu ne tueras point de Mel Gibson. Moi, j'arrive à me mettre du point de vue du personnage, même si c'est extrêmement religieux. Et il est vraiment voué à sa religion. Là, il subit pas les choses. Il essaye de s'en sortir vivant. Il veut revoir sa famille. Et malgré tout ce qu'il croit, il essaye de s'en sortir. Et en plus, bon, bah, dans Tu ne tueras point, t'as tout le décorum hollywoodien, la brutalité du film qui fait que ça me parle plus.
Ouais.
Et j'ai le même souci avec Silence de Scorsese. Je trouve le film magnifique, mais à aucun moment, je peux comprendre les personnages, en fait.
Alors, ma question d'ouverture sur le film Une vie cachée, Tristan l'a mentionné un peu en parlant de son avis sur le film. Prendre son temps, ça apporte quoi à une histoire ? Tristan le disait, ça nous montre quelque part dans Une vie cachée le calvaire hein, qu'a vécu Franz Jägerstätter. Qu'est-ce que ça apporte de prendre son temps ? Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de prendre son temps ? Je pensais à David qui a parlé pas mal de Silence aussi. Je me dis que moi, quand j'ai vu Silence de Scorsese, quelque part, le fait que ça prenne son temps, j'avais le sentiment de porter le fardeau que portent les deux personnages principaux de Silence. Je vivais la même galère que eux. Pour toi, Fouad.
Je pense que oui, c'est important qu'un film contemplatif prenne son temps, puisque il s'agit, c'est dans le terme contemplatif, il s'agit d'épouser le rythme des personnages et surtout le rythme de leur psychologie. C'est un cinéma immersif, le cinéma contemplatif, c'est immersif. Donc tu te dois de te synchroniser avec la psychologie, avec la pensée des personnages. Donc oui, c'est important. Michael Bay ne peut pas faire des films contemplatifs, par exemple. Ça poserait problème.
Bah, y a peu de psychologie.
Oui, voilà, c'est ça.
Et les explosions.
Mais, et puis, c'est un peu nos vies à nous. Hein, je veux dire, la vie est indissociable. Elle a un peu de lenteur, une forme de lenteur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important.
Mais c'est ce que j'aime à dire, au final, dans le cinéma. C'est qu'au final, dans la vie, on s'ennuie plus que qu'on reste, on va chercher des trésors comme Indiana Jones le fait.
On va chercher des recommandés à la poste.
On va à l'ère de Falun. lampin sur la 25.
On ramasse les crottes du chien.
Non, on va rarement dans les pyramides de Khéops aller chasser de la momie, quoi. Donc, le cinéma contemplatif permet de montrer une certaine réalité, celle de l'ennui. Et je le disais en introduction de l'émission, c'est aussi un éloge, parfois, à l'ennui. Et rien, ça peut permettre ça. Tristan.
Eh oui, mais en plus, la Fouad parle de synchronisation, mais en fait, dans Une vie cachée, on se synchronise aux éléments et à la nature,
oui,
en fait.
C'est ça qui. Exact, oui, tout à fait.
T'as un plan fixe sur de la pluie. Bah, tu te synchronises avec la pluie, tu vis la pluie, en fait. Et du coup, c'est cette lenteur qui va te connecter avec la nature. C'est un vrai documentaire Disney, en fait, ce film.
Comme dans Microcosmos.
Exactement.
Béa. Béa.
Pas mieux.
Oui, ça permet aussi de. Que le réalisateur ne nous impose pas les choses, c'est-à-dire qu'il nous laisse devant un plan et c'est à nous de faire le boulot, en fait.
Ouais, exactement.
Donc ça laisse complètement libre cours à notre imagination.
Dans Une vie cachée, effectivement, il y a cette notion de nous faire perdre le fil de ce qu'on regarde pour aller dans nos pensées et peut-être se faire un avis tiers sur le film qu'on n'aurait pas pu se faire dans un montage un peu plus nerveux. Mmh. Donc c'est aussi à ça que ça sert de prendre son temps. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ?
Bah, un film contemplatif avec une narration, on va dire, classique, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus le même film, en fait. Parce que Une vie cachée, tu peux le faire à la, tu fais un film historique, classique,
ouais.
Avec scène de procès, grande fanfare, etc. Donc, scène de suspense.
Genre en mode j'accuse de.
Voilà, c'est ça. Enfin, mais c'est plus du tout la même chose.
Et on passe tout de suite à Ad Astra de James Gray. On va se marrer. L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père, disparu, et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Ma question anecdote sur le film. Avec quel film a-t-on pensé pendant un moment que Ad Astra partageait l'univers ? Vous avez la réponse à cette question, il s'agit de Space Cowboy. Non, c'est Space Cowboy, je vous avais répondu dans un enregistrement. Vous vous souvenez quand la carte SD a merdé ? Il y a à peu près de ça. Il y a à peu près de ça 20 minutes. Donc en fait, effectivement, il se trouve que Tommy Lee Jones, qui est au casting de Space Cowboy et de Ad Astra, porte la même combinaison spatiale orange dans les deux films, donc au moment de la présentation du film, certains malandrins se sont dit « Tiens, ça fait partie du même univers partagé, ce serait rigolo ou quoi ? Ma vie, c'est de la merde, ok ?» Alors,
Plus, à la fin de Space Cowboy, c'est pas Tommy Lee Jones qui reste sur la Lune.
Oui, c'est ça, tout à fait, exactement, donc ça aurait été rigolo qu'il y ait un lien. Alors, Tristan, qui, dans l'émission 2019, avait dit « Ad Astra, c'était mon film américain, préf. » Est-ce que tu peux nous en reparler avec tes mots si doux ?
Ouais, surtout que là, je vais reprendre les réponses de tout le monde, parce que j'étais le dernier à répondre.
Initialement, Adam. Tu parles de l'enregistrement qui a été supprimé ?
Non.
Celui-là ? Non, tu ne parles pas de celui-là, d'accord.
Alors, ouais, moi, j'ai vraiment adoré Ad Astra. En fait, je trouve que c'est un des seuls réalisateurs à faire encore des grandes odyssées pour le cinéma. Comme on n'en fait plus, en fait, il l'avait fait avec Lost City of Z, il avait remis au goût du jour le film d'exploration. Et là, putain, mais c'est encore hyper ambitieux, en fait, comme projet. Pour moi, en tout cas, qui ai vu Apocalypse Now il n'y a pas longtemps, c'est vraiment le Apocalypse Now de l'espace. Mm. Tu retrouves exactement la même introspection du personnage, la même quête et le même voyage, en fait. Tu vas suivre Brad Pitt tout au long de cette quête de quelque chose, parce que tu sais pas vraiment ce qu'il veut. Et pour moi, ça n'a pas encore été dit, mais logiquement, c'était dit avant. mais c'est pour moi une des plus belles scènes de lune du cinéma de ces dernières années, parce que cette scène de lune, elle est incroyable. Je trouve que t'es dans le casque de Brad Pitt, t'as le même son, et sur la lune, t'as aucun son. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'il retranscrit tellement bien ça, cette espèce de scène de guerre, en fait, sans son. Je trouve ça fou, j'ai trouvé ça dingue. Au ciné, c'est incroyable.
Bah, James Gray, quelque part, partage ça avec Amel Bent, c'est que viser la lune, ça lui a pas fait peur, finalement.
Tout à fait.
Au cinéma, alors que c'est compliqué. David, il me semble, dans un enregistrement récent qui date d'il y a 30 minutes, tu parlais de chef-d'œuvre. David, est-ce que t'as changé d'avis en 30 minutes ou est-ce qu'on est toujours là-dessus ?
Non, vraiment, c'est Ad Astra, pour moi, c'est un film sublime. Je trouve qu'il est d'une beauté dingue. T'as les couleurs, la photo, la poursuite sur la lune, t'en parlais, Tristan, la première scène avec Brad Pitt qui répare encore une antenne, mais avec une combinaison et pas torse nu cette fois. c'est dingue de tension, enfin c'est vraiment hallucinant. Je trouve que le film a passé cette première scène, après il devient vraiment beaucoup plus subtil, plein de sensibilité, il est profondément triste. Moi, c'est un film qui m'a profondément déprimé, parce que t'as l'intime dans l'immensément grand, Et donc, tu peux penser à Malik dans l'espace, avec la voix off de Brad Pitt, parce que tout le film est contenu dans cette voix off. Tu penses évidemment à 2001 de Kubrick, etc. Après, moi, j'ai un kink au ciné, c'est les histoires de papa. Donc, que ça parle un père et son fils, ou
donc
le
fils
et son père.
T'as aimé Monsieur Papa avec Kadmerad?
Oui.
Et le doudou avec Malik Bentala.
Fiston, voilà, fiston.
Voilà.
Ou Papa avec Alain Chabat.
Ah, et Papa avec Alain Chabat, c'est un sublime film.
Génial.
C'est un aussi grand chef-d'œuvre que... Ouais.
Et Fiston la...
Ouais, Fiston moins. Mais on va en parler à chaque fois qu'on fait une émission. Fiston, c'est un des grands films de Franck Dubosc, dans la carrière de Franck Dubosc. Mais du coup, voilà, moi, l'histoire de Papa, ça me touche beaucoup et ça me parle énormément. Et je trouve que la prestation de Brad Pitt dans le film, elle est géniale parce qu'elle est toute en intériorité. Et alors, apparemment, il est en plein divorce quand il a tourné le
film. C'est pas la seule fois de sa carrière où ça lui est arrivé, David. Parce qu'il en a connu de la gramouche, comme on dit dans le milieu.
Il s'est pas marié tant de fois, hein.
Ah oui?
Ah bah
plus
oui,
que
il
moi.
Est quand même resté longtemps avec
Jennifer Aniston, Angelina Jolie, et c'est tout.
Ouais, c'est...
Ah bon, bah oui, c'est tout.
Ok.
Et non, il était avec Gwyneth Paltrow aussi, avant
oui,
son accident de tête dans une box.
Ouais.
Et...
Je crois que Brad Pitt il doit baiser à gogo.
Okay. Voilà, c'est le résumé de foi.
Pour résumer,
voilà.
Et donc, ouais, il est en plein divorce et je trouve que ça se ressent dans son jeu. Et donc, le film il est très très froid et ça peut rebuter. Mais je trouve que le sourire final de Brad Pitt à la fin, moi il m'a terrassé parce que c'est le seul moment du film où il a une émotion en fait.
Ouais,
et je trouve que enfin, vraiment c'est un film génial. Et de toute façon, James Gray c'est un réalisateur génial. La nuit nous appartient, The Yard, ça fait partie de mes films préférés. Vraiment, Ad Astra, c'est un chef-d'œuvre.
Fouad, partages-tu cette analyse si fine de David Marmignon, le chroniqueur de Parlons Péloche, anciennement chroniqueur des Aventuriers des Salles Obscures?
Ouais, carrément. Ouais, j'ai beaucoup aimé Ad Astra. En plus, le titre est très joli, Ad Astra, je trouve que ça claque bien. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment le cinéma de James Gray a évolué par Little Odessa, un film sur son quartier, le quartier où il est né, quartier de New York, où il est né, vers le polar urbain, le film d'aventure, et là, le film de science-fiction dans l'espace. Et moi, je trouve ça fascinant comment, en fait, tout naturellement, il a fait évoluer, tout en continuant à travailler les thèmes qui lui sont chers, c'est-à-dire la famille, les liens fraternels, comment il a fait évoluer sa forme, tout en traitant la même chose, vers une forme de plus en plus spectaculaire et de plus en plus épique. Et c'est tout en parlant de la même chose au final. Mmh. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que tout en se démarquant très habilement de 2001, l'Odyssée de l'espace, bien qu'il partage quelques plans, des fois j'ai eu l'impression de voir des plans d'Interstellar parce que il a le même chef-op, hein, c'est le même chef-op qu'Interstellar, et c'est tout à fait normal. Quand tu t'attaques à un film de science-fiction, vaut mieux t'entourer d'un chef-op qui connaît le genre. C'est que c'est les questions qu'il pose, quoi. C'est les questions qu'il pose, le rapport au père. Est-ce que tu es condamné à devenir ton père? Est-ce que tu es condamné à hériter des faiblesses de ton père?
Ils avaient hésité avec le chef-op de Star 80, je crois.
Ouais.
Ouais. Bon, je pense que bien lui en a pris. Et
c'est beaucoup moins demandé par Hollywood.
Et la question, moi, je trouve assez forte aussi que le film pose, c'est que quand tu as quelque chose de grand, quand tu as envie d'accomplir quelque chose de grand, et là, en l'occurrence, la conquête spatiale, est-ce qu'elle vaut que tu y sacrifies ta famille? C'est ça qui est fort. C'est est-ce que la conquête de l'univers justifie que tu abandonnes ta famille? Est-ce que la famille, est-ce que l'univers, c'est pas la famille, finalement?
Oh.
Tu vois? Est-ce que ça vaut tout ça? Est-ce que la conquête de l'espace, l'accomplissement de grandes choses, l'aventure avec City of Z, est-ce que ça vaut d'abandonner ta famille au final? Est-ce que c'est le bon choix? Et c'est, moi, je trouve que c'est bouleversant comme question.
Vraiment. David qui, lui, abandonne sa famille pour faire Parlons Péloche, n'est-ce pas?
Ah bah là, tu vois, je viens de recevoir un message. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es dispo pour lui dire bonne nuit? Et je lui ai dit, non, on enregistre.
Antoine sur Ad Astra, toi, tu t'es...
Ben,
je sais plus.
Moi, je suis plutôt content d'être content et déçu d'être déçu. C'est-à-dire que ce film me laisse un peu pantois. C'est-à-dire que à la fin, j'ai pas ressenti tant d'émotions. C'est-à-dire que Il y a ce parallèle entre l'univers, le voyage intérieur du personnage, sa quête de retrouver son père, et en parallèle le voyage qu'il fait physiquement, c'est-à-dire passer de la Terre à la Lune, de la Lune à Mars, et ensuite de voyager. Je trouve que...
Comme Brad Pitt de femme en femme.
Exactement. Il passe de lune en lune.
Ouais.
Et en fait...
Je me retiens pour faire des blagues de merde.
Je trouve que le film, il est... Moi, j'ai ressenti un peu coupé en deux parties. Il y a vraiment cette partie où il est plutôt avec les autres, et les autres l'accompagnent, voire l'aident à avancer. Et après, il se retrouve tout seul. Et là, moi, le film m'a perdu. J'étais plus touché par le personnage. J'ai pas été touché par cette relation père-fils, contrairement à vous. Je comprends cette idée que tu disais, Fouad, de quitter sa famille. Est-ce qu'au final, mener une quête personnelle, est-ce que ça nécessite d'abandonner nos proches? Et je trouve que oui, c'est peut-être une réflexion, mais le film a tellement cette tournure-là que j'avais l'impression qu'au final, est-ce que le film n'est pas juste qu'une métaphore de la relation père-fils, de relation à quête? Et au final, j'ai l'impression que le scénario, la narration... disparaissait un peu. En fait, l'aventure n'était plus là. Mais c'est du contemplatif, c'est magnifique, il y a des plans incroyables, la Lune, c'est génial, c'est fabuleux, mais il y a beaucoup d'incohérences.
C'est un titre de soft porn, ça. La Lune, c'est génial, les zouzous. Et moi, il y a un moment du film où la narration est abandonnée, moi j'aime bien, c'est que on dit à Brad Pitt de laisser une bouteille à la mer, un peu pour un message que son père pourrait éventuellement entendre, et on a tout le suspense de savoir est-ce que son père va l'entendre, comment son père va réagir s'il l'entend. Et ce moment-là, je trouve que justement, la relation est, c'est peut-être le moment où la relation est la plus belle, en fait. On sait pas, et c'est rigolo de voir Brad Pitt droit dans ses bottes, sûr de lui, nanan, mais il a pas eu de papa, pas vraiment. Donc il est fort, mais avec cette faiblesse quoi qui l'animera.
Bah, c'est surtout que son père est devenu un héros, disparu trop tôt, donc lui il est considéré comme un héros par tout le monde.
Comme Enzo Zidane, le gardien de la réserve du Real Madrid. Comment réussir à s'en sortir en dehors des pas de son père Zinedine? Béa, tu parlais toi d'une grande déception. T'aimes beaucoup James Gray, mais t'as été un petit peu déçu. Tu en parlais dans l'épisode des films de 2019.
Oui, là voilà, j'ai déçu d'avoir été déçu.
Voilà. Ah oui, ok.
Voilà, c'était ça la phrase. Non, parce que comme David, en fait, moi j'aime plutôt bien ce réalisateur. J'ai beaucoup aimé The Yards, j'ai beaucoup aimé La Nuit nous appartient, et ce film en fait. Que j'attendais beaucoup. Je l'ai pas détesté, hein, mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyée, et parce que justement, vous l'avez redit, il y a ce traitement de la voix off, cette voix de dépressif tout le long du film, qui fait que moi, de la même façon que dans Une vie cachée, ça m'avait fait le même effet. Moi, je trouve que ça alourdit les choses. Alors oui, c'est très beau, mais au niveau émotion, moi, j'étais vraiment à zéro. Et il se mélange. Alors vous voyez un film découpé en deux. Moi, je vois vraiment un mélange de genres entre une pseudo-action dans l'espace et le voyage intérieur, même si je comprends l'objectif de justement faire ce parallèle entre l'odyssée spatiale et l'odyssée intérieur. Mais voilà, moi, cette voix off, elle m'a vraiment plombé tous les petits frissons que je
pouvais
avoir.
Alors que c'est celle de Brad, quoi. Brad que j'essaye d'avoir dans Parlons Péloche depuis un moment pour justement être la voix off, mais pour l'instant, il a décliné, il n'a pas répondu. Mais c'est quand même, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est une voix off qui vend du rêve, quoi, Brad. Mais tu l'as trouvé un peu trop...
Oui, non, mais encore une fois, c'est pas lui. Moi,
ouais, c'est le principe, quoi.
Je le trouve parfait dans le film. C'est vraiment pas le souci. Je trouve pas ça mal fait. C'est juste que c'est moi, dans ce traitement de cinéma...
ça surligne un peu trop le truc, quoi.
Voilà, ça surligne trop, et mais moi j'ai pas besoin de ça parce que j'ai une grande capacité d'imagination.
Ah. Eh bien, parlons de l'imagination qui est au cœur de ce genre qu'est la science-fiction. Et là, on va parler de science-fiction et de contemplatif. La question que je me posais, c'est la science-fiction est-il le meilleur genre pour le contemplatif? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que je trouve que dans la science-fiction dans tout ce qui est planète, opéra, etc., on invente des mondes qu'on ne verra jamais. Voilà, dans Une vie cachée, le champ en Autriche, tu peux aller le voir si tu veux. Tu prends un ticket Ouigo, après tu changes à Austerlitz, et après tu vas vers l'Autriche et tu vois un champ. Mais voir une planète, on le verra jamais de nos yeux. Donc pour moi, le cinéma...
Tu peux citer une ville autrichienne?
Vienne.
Très bien.
Voilà.
Bien
moi, joué. Je me suis pas trop foulé, mais, mais voilà, Vienne.
Une deuxième?
Ben oui. Et du coup, ce que je me dis, c'est utiliser le contemplatif dans la science-fiction, ça permet presque de rentabiliser émotionnellement la recherche qu'il y a eu. Et je pense notamment au dernier Blade Runner et au premier Blade Runner, où là, bah, on s'attarde sur des décors qu'on ne verra jamais grâce à l'usage du contemplatif. Tristan, tu voulais intervenir là-dessus. Est-ce que c'est le meilleur genre pour y insérer du contemplatif?
Bah, alors, la SF, c'est sûrement le meilleur genre, mais c'est surtout l'espace, en fait, qui est le lieu parfait pour ça.
Ouais.
Parce que dans l'espace, personne ne vous entend crier. En fait, dans un film contemplatif, tu n'as pas envie d'entendre crier les gens. Et en fait, c'est parfait. Le son de l'espace est parfait. C'est rempli de vide. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, en fait, dans l'espace. Donc, c'est parfait pour faire des plans fixes, longs, silencieux, contemplatifs. Beau. Voilà.
Dans Alien, ça crie quand même un peu.
Ouais, ça crie un peu. Mais dans le vaisseau.
Tout à fait.
Et dans un coffre de bagnole non plus, on n'aime pas entendre crier des gens. C'est souvent, souvent mauvais signe. Qui veut répondre là-dessus? À la limite, là, levez bien les mains, même, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Fouad.
La science-fiction a donné des chefs-d'œuvre à ce niveau-là. Typiquement, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, c'est un genre qui reste... La science-fiction qui est très marquée par cette date-là, et un film qui veut réinvestir ce genre du contemplatif par le biais de la science-fiction, à un moment donné, il va avoir du mal à échapper à la comparaison avec 2001.
Ouais.
Alors que c'est vrai.
S'il y a eu Interstellar, il y a eu.
Alors Interstellar, voilà. Pour moi, même si c'est un Nolan que j'aime pas beaucoup. Il a voulu faire son 2001, puisque Nolan est un grand fan de Kubrick. Donc, c'est un genre qui est éminemment marqué par ce monument qu'est 2001. Je pense que, pour ma part, on a fait le tour du sujet pour ce qui est de la science-fiction. Maintenant, il y a des genres intéressants. En tout cas, il y a d'autres cadres, d'autres environnements qui se prêtent tout à fait au contemplatif. Terrence Malick nous le montre depuis le début de sa carrière. Et puis, je sais pas, il y a des faire un film en mer, par exemple, ou sous-marin, ou bien pourquoi pas un film, je sais pas, ouais, un film qui sera beaucoup plus proche du quotidien.
Ou par exemple un film avec un mec qui a un drap sur lui pour être en fantôme.
Et ouais. Pourquoi
par
pas.
Exemple. Et du coup, on passe tout de suite à A Ghost Story de David Lowery. Alors, apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'il partageait encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Alors, un peu dur à comprendre comme synopsis, mais le film est plus simple à appréhender. Ma question sur le film, quel film, j'ai deux petites questions, quel film a permis de financer A Ghost Story?
Casper?
C'est pas Casper, mais ça a été une grande inspi avec Whipstack notamment. Mais non, c'est pas Capster, c'est un autre film de David Lowery.
C'est Peter Elliot le Dragon.
Peter Elliot le Dragon.
Ah. Pour Disney.
Encore une fois.
Qui est vraiment pas mal. Hein. Il est sur Disney+, là, et franchement, c'est un super film.
C'est un excellent, ouais, tout à fait, une super adaptation.
C'est les conseils de David et Fouad. Vous voyez ce film, moi je préfère l'original, hein, nettement, mais bon... Pourquoi le fantôme est représenté à partir d'un simple drap blanc? Pourquoi David Lowery, qui a fait ce choix, a fait ce choix?
Bah parce que c'est un... Enfin, tout le monde pense à un fantôme quand on voit un drap blanc. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de se dire « Ah mais il est vivant, il est mort et tout ». Non, on sait tout de suite... que c'est un fantôme, quoi.
Exactement, c'est pour ça, Antoine voulait rajouter.
Bah moi, je pense que c'est juste une grosse pince qui veut faire des économies sur des effets spéciaux.
Alors, c'est une part, oui. Mais sache que ça a été très difficile, ce costume, elle était très très dure à gérer.
C'est vrai.
Alors déjà, donc Béa, c'est tout à fait la bonne réponse. Hein. Tu peux mettre...
Franchement, tu prends un grand drap blanc, tu fais deux trous, enfin...
Ouais, mais ça marche.
Mais c'est vrai que...
C'est tellement efficace.
Ça rend bien l'image, quoi.
Mais il y avait plusieurs...
Chaud, tu peux marcher dessus et tout, c'est une galère. Hein.
C'est une galère. Non, mais ouais. Mais il a vraiment galéré, notre petit ami, j'ai oublié le nom de cet acteur, c'est fou.
Non, mais les yeux sont noirs, quoi. C'est vraiment,
est-ce que c'est vraiment bien lui? Est-ce que c'est lui derrière?
C'est lui. Alors c'est ça que je me suis posé comme question. J'ai fouillé. C'est bien Casey Affleck.
C'est bien Casey Affleck.
C'est Daniel Auteuil apparemment qui l'a remplacé.
Non, c'est pas Daniel Auteuil, mais il y a 2-3 scènes où c'est Ramucho du Big Deal qui est revenu un petit peu pour. je sais pas pourquoi. Apparemment, il y avait une bonne démarche. Mais
voilà, ref.
Ça a été une vraie galère. Il y a justement plusieurs draps. C'est un drapé très intéressant.
Ouais, il y a plusieurs couches.
Avec un masque en plus. Et
c'est un drapé très intéressant.
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais
si, c'est
le grand livre des draps.
Non, mais 100% c'est vrai. Coton, non, je veux dire, n'importe qui met un drap dans une soirée, ça rend pas ça.
Bah voilà, non, ouais, exactement.
Ah bah non, pas du tout.
Et figurez-vous qu'en plus, ça, je saurais pas vous dire pourquoi, mais l'usage du 4 tiers faisait que c'était encore plus difficile de rendre ça à l'écran pour que ça paraisse crédible. Donc ils ont bien galéré. Et en plus, il faisait très très chaud sur le tournage. Et donc Béa, tu l'as dit, hein, tu peux montrer cette image-là au Japon, en Uruguay ou au Portugal. On sait que c'est un fantôme, c'est un peu l'imagerie qu'on en a collective, notamment grâce à Halloween de John Carpenter, dans la scène où Michael Myers se part d'un drap blanc, et c'est un peu une des scènes que David Lowery avait en tête. C'est vrai que Michael Myers, pour le coup, c'est pour un autre but, mais fait très peur derrière son drap blanc. Et là, il a essayé de retrouver un peu ce côté statique du fantôme. Tristan, je vais tout de suite t'interroger sur ce film parce que je pense qu'il est... Allez, pas au panthéon de tes films préférés, mais quand même, on est sur une petite
non,
pépitasse.
N'en fais pas trop.
Non, mais tu l'adores, ce film, non? Tu pourras avoir une aventure sentimentale romantique.
Je l'ai vu au cinéma parce que je l'attendais depuis très longtemps, en fait, depuis la première image qui était sortie.
La bande-annonce, c'est très efficace, hein.
Voilà, ce fantôme en drap blanc dans un bâtiment détruit, enfin au milieu de décombres, c'était la première image qui était sortie de ce film. On savait qu'il y avait Casey Affleck, Rooney Mara, mais je me suis dit mais ça a l'air trop bien et j'ai pas été déçu du tout.
Tartes.
Ouais, j'adore ça. Ouais. Mais je vais en parler.
La scène de tarte.
Je trouve ce film hypnotisant. Quoi. Déjà, je suis amoureux des deux acteurs.
Ouais.
Rooney Mara, Casey Affleck, je suis amoureux des deux, ils sont beaux dans le film. T'es complètement à terre en fait quand il arrive ce qu'il arrive. En fait, on peut spoiler.
Non, on peut le dire, c'est dans la bande-annonce.
10 minutes.
Ah bah oui, c'est pas.
Donc Casey Affleck décède d'un accident de voiture. Ah.
Non mais c'est moi j'étais à terre, c'est déchirant.
Casey Affleck aussi. Hein.
La scène de la tarte. La scène de la tarte est déchirante pour
donc
moi.
Donc on peut la décrire peut-être.
Et ben en fait c'est Rooney Mara qui s'assoit par terre dans sa... En fait il y a une voisine ou une copine qui lui a déposé une tarte pour un peu la réconforter, une tarte maison, et Rooney Mara la récupère, elle rentre chez elle la récupère et elle s'assoit par terre, elle se laisse tomber par terre et elle bouffe sa tarte mais jusqu'à en vomir en fait, jusqu'à en être malade. Et la scène dure, je sais pas, enfin entre 5 et 10 minutes et je sais même pas combien de temps ça dure, tu vois, j'ai
4.
Même pas envie de savoir,
c'est
4 parce
minutes.
Que
bah, bah,
moi,
là,
ça m'hypnotise, en fait. En fait, ça fait tellement écho à un comportement irrationnel que tu peux avoir dans des moments où t'es à terre, quoi, où t'es triste, où tu réfléchis même plus et tu vas te rendre malade. En fait, tu vas avoir un comportement vraiment...
Elle va chercher à se réconforter,
mais
il n'y a rien.
Elle l'a mangé à la main, en fait.
Bien sûr, ouais.
Et c'est trop beau, Rooney Mara, elle le joue très bien, c'est déchirant. Je trouve que tous les plans de ce film sont des fonds d'écran. Tu l'as dit, pour Une vie cachée, tu peux faire pause à n'importe quel moment, c'est un fond d'écran. Enfin, je trouve ça magnifique. En fait, le truc, c'est que on est fasciné par un fantôme en drap blanc, en fait. C'est un fantôme à l'ancienne, c'est un fantôme à un dessin d'enfant, quoi. Et c'est parce que le clair-obscur est magnifique, la photographie du film est magnifique, le 4 tiers, ça rajoute, je trouve, à... une dimension poétique et onirique
avec
sur
des
le truc.
Petits bords flous.
Ouais, non, mais c'est ça. Et puis c'est une fable. C'est une fable sur l'existence, sur le temps qui passe. Et c'est beau, putain. C'est trop beau. J'adore. Je trouve ça. J'adore ce film.
Le fantôme et la tarte de La Fontaine.
Voilà.
Et du coup, je me dis.
J'ai un gros souci sur la scène de la tarte, c'est qu'on sait jamais à quoi elle est, cette putain de tarte.
C'est une apple pie, je crois.
Ouais, c'est une tarte au quetch.
Mais cette scène, effectivement, elle est clé. Elle a fait beaucoup parler au moment où le film a été présenté en première projection presse. Et on en a déjà largement parlé au début de l'émission. Mais le contemplatif sert probablement à ça, à nous montrer. C'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais la simplicité de la façon dont tu prends le deuil, en fait, dont tu gères un deuil. Et vu que l'objectif du film c'est ça, la scène de tarte, elle est pas si idiote que certains ont bien voulu le dire, de dire mange une tarte. Non, allez plus loin, cherchez et regardez. Enfin voilà, maintenant qu'on l'a décortiqué, tu la découvres plus quand tu vois le film, pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais voilà, c'est une scène clé de ce film, un film que Fouad a adoré, n'est-ce pas ?
Ouais, carrément. J'ai été essoufflé, moi. Je l'avais raté en salle, et j'étais très content d'aller le voir, parce que moi j'aime beaucoup ce mec, David Lowery, je le trouve très intéressant, ce cinéaste. Il a fait effectivement un excellent Disney, Peter et l'autre dragon, mais pas que, il a fait également The Old Man with the Gun avec Robert Redford. Ouais. Et là, son dernier, la bande-annonce à dispo, The Green Knight, qui est un film
avec
de...
Dev Patel, ouais.
Ouais, la bande-annonce est vraiment tabasse, parce que ça a l'air d'être un truc d'heroic fantasy. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce cinéaste, c'est qu'il maîtrise l'intime des personnages avec la maîtrise technique du spectaculaire, quoi. Donc, c'est un cinéaste qui a deux qualités que j'apprécie, c'est-à-dire il maîtrise le fond et la forme. Donc, vraiment, c'est un monsieur que je suis attentivement et j'ai été complètement soufflé par ce film, parce qu'il, bien évidemment, il parle du deuil, mais il parle du deuil du point de vue du disparu. On est surtout avec le disparu. Ouais, ouais. Et
en point of view, c'est vrai. Pardon, t'as raison. Non, mais c'est vrai.
Non, mais on a le point de vue du fantôme, en fait. Ouais. Hein. Mais en parlant d'un fantôme, il nous parle aussi de nous, ouais, indirectement. Et moi, j'étais bluffé. Moi, c'est que moi au début, quand j'ai vu l'affiche, mais attends, c'est quoi, c'est une blague? Parce que pour moi, perso, le fantôme avec un drap et deux trous, pour moi, c'est presque ridicule. C'est un fantôme de farce et attrape. Tu vois, c'est vraiment quand tu veux amuser les enfants, les enfants veulent s'amuser aux fantômes, mais ils se mettent un drap sur la tête et ils font deux trous. C'est quand même une manière assez risquée, je trouve, de représenter un fantôme. Et ça passe super bien. Parce que le film aurait pu être ridicule à ce niveau-là. Et je trouve que ça passe éminemment bien, parce que eh bien tout le reste te vend l'histoire. Moi, c'est la durée des plans, moi, qui me fascine, des plans qui durent plus que nécessaire, et moi j'étais hypnotisé par la durée des plans, parce que tu te dis mais tu attends, et il tire la durée des plans jusqu'au bout, jusqu'au maximum,
parce que de la provoque,
mais ça marche. Et puis, moi, c'est le format 4 tiers aussi qui m'a très, très surpris. Tu vois, le format 4 tiers, c'est le format du passé, quoi. C'est le format des premiers films. Hein.
Michel Drucker.
C'est ça. Non, mais
c'est le premier ouf.
Les premiers films étant 4 tiers. Et le choix du 4 tiers, un format du passé, pour raconter une histoire de fantôme, puis en plus, bon, on va pas trop spoiler, mais c'est un film...
Le temps qui passe, ouais.
Voilà, le temps qui passe.
C'est ce qu'il a voulu, hein, En plus, alors lui, sa vision du 4 tiers, c'est que, contrairement au 16/9, où là, nous, on voit tout, là, le 4 tiers surplombe le spectateur, selon lui, parce qu'en fait, il le regarde d'en haut. C'est un peu ça, pourquoi il a choisi le 4 tiers,
c'est ça. Ouais, pourquoi pas, ça se tient très bien. Et puis, après, c'est un film qui te fait voyager, hein. On va pas trop spoiler, mais c'est un film incroyablement ambitieux,
ouais,
et qui en plus a l'air comme ça très simple, mais c'est un film extrêmement compliqué, minutieux, extrêmement maîtrisé, et c'est ça qui est beau avec ce film, c'est qu'il a tous les atours de la simplicité.
Mais il est coupé en deux parties, et ça tu le sais pas d'avance.
Ouais.
Ça,
ah ouais.
Tu t'y attends pas du tout.
On le voit un peu dans la bande-annonce, mais on se demande pourquoi.
Et vraiment, j'ai été soufflé par ce film qui me confirme tout le talent de ce vraiment un futur grand cinéaste, ouais.
L'histoire le dira, une grande chroniqueuse dans l'émission, Béa, qui on a partagé des salles, des sièges en velours ensemble. Je sais que le contemplatif, c'est pas forcément de prime abord ce que t'aimes, mais là je me pose vraiment la question, Béa, est-ce que tu aimes ce film, toi qui n'es quand même pas insensible? On chiale régulièrement chez Béatrice, on le sait. Béa, dis-moi que t'as aimé ce film, je t'en supplie.
Mais j'adore ce film. Mais oui, mais si tu te souviens bien, je pense que si tu réécoutes l'émission de la rétrospective 2018, du coup, je pense qu'on en a parlé. Enfin, c'était un coup de cœur parce que c'est un des derniers films que j'ai vu dans l'année. Enfin, je sais plus quelle année. Bref, peu importe. Très très belle surprise. C'est quelle poésie, quelle BO, quelle histoire d'amour, quel beau drap. Enfin, c'est je l'ai dit souvent, mais c'est vrai que je suis en plus très touchée par le thème du deuil, de la mort, de la vie après la mort. Et là, le titre dit tout. C'est l'histoire d'un fantôme. Et ça parle d'amour, ça parle du lien. Et il y a un traitement pour symboliser le temps qui passe, qui semble comme... En fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que il montre la vie qui avance comme un tourbillon, un tourbillon, un tourbillon, un tourbillon. Et à côté de ça, en parallèle, on a ce fantôme qui vit son éternité Et c'est particulièrement bien reproduit, j'ai trouvé. Donc ouais. C'est puisque vous parlez de Disney, mais c'est l'histoire de la ville, c'est le cycle éternel. Et voilà, je pensais que c'était un.
Il y a peu d'antilopes quand même hein, dans. Faut le dire, hein, vos spectateurs. Il y a peu d'antilopes dans le film, faut le dire.
Ah oui, important. Effectivement. Mais en fait, ouais, je pensais que j'aurais peut-être un peu moins de plaisir à le voir, parce que vraiment au cinéma, j'y suis allée sans savoir exactement ce que j'allais voir, et j'avais été totalement cueillie par le film. Et vraiment, enfin, j'ai eu le même plaisir, voire plus en fait, en sachant j'ai été plus peut-être dans les détails. Et c'est un très très beau film que je pense que peu de personnes ont vu.
Ça va changer après la diffusion de cette émission. C'est là toute l'influence qu'on a sur le monde.
Non mais voilà, après c'est vrai qu'il faut se préparer. C'est particulier. Il faut se laisser prendre par le film. Voilà.
Voilà.
Il faut un peu être dans un bon mood quand même.
Oui 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 oui.
Si t'es en dépression, oui.
Mais c'est pas, je le trouve pas triste moi comme film. Enfin,
si t'as des problèmes de cœur et que t'es un peu en dépression après une séparation ou après un deuil, c'est pas ouf.
Ouais. Tu sais pas.
Eh ben,
ouais,
je sais pas à qui donner la parole entre David et Antoine. Ce que je vais faire, c'est que celui qui aura la parole, c'est le dernier qui dira le mot deuil.
Deuil.
Voilà, donc c'est à David.
Moi au départ je partais vraiment à reculons hein, au film. Enfin pour moi la bande annonce,
un monologue, annonce
un petit peu comme mais tu vois c'était
ça fait un truc visuel David, on est en podcast audio.
C'est vrai. Il va vraiment falloir qu'on fasse des lives sur Zoom. Et donc pour moi c'est vraiment le cliché du film d'auteur de A24, tu vois, avec le cadre Instagram, le naturalisme, mais tu vas dire c'est beau quand même machin. Et mais alors, déjà soufflé par une chose, le film il est d'une beauté hallucinante. Ah ouais. C'est très élégant, même les sous-titres ils sont beaux dans ce film, c'est ça qui est dingue. Alors après
c'est en Times New Roman il me semble.
Et puis il y a une petite ombre portée, c'est vraiment magnifique. L'atmosphère qui s'en dégage, elle est hypnotique. Tu l'as dit, hein. Moi j'ai vraiment été happé par ça parce que je sais que ce que je vois c'est d'une lenteur exagérément lente, mais pourtant mes yeux ils voulaient pas se détourner. Et donc j'avais prévu de te faire des blagues à base de j'aurais préféré voir Whoopi Goldberg qui fait des gros yeux et Patrick Swayze et machin, mais
c'est vrai.
Et en fait j'ai été soufflé par le film et même si la première partie, je la trouve vraiment trop trop aride parce que j'ai pas envie de voir de façon réaliste une des pires peurs de ma vie, c'est-à-dire mourir et laisser ma famille en plan et qu'ils continuent leur vie sans moi. Mais alors le reste du film,
sache que Laurie, ça lui fait pas très peur, au contraire. Hein.
Elle, j'ai ouï dire. En train de faire wouhou. Et donc le reste du film, il m'a vraiment cassé les jambes. Avec ses tourments existentialistes, sa façon de présenter le temps qui s'écoule et notre place sur Terre, moi ça m'a terrassé, ça m'a bien déprimé, ça m'a filé une angoisse existentielle, genre d'où venons-nous, où allons-nous, j'ignore de le savoir quoi. Et donc du coup j'étais pas bien en sortie du film et il m'a fallu justement retrouver ma famille et faire un câlin à mon gamin pour me dire
ouais, bon barbecue, c'est reparti quoi.
Ouais, ouais, bon barbecue avec Fouad, c'est reparti. Et donc du coup, c'est là, je suis sorti du film en mode la vraie vie, elle est là, l'existence, elle est là, et ça fait du bien de voir des films qui te rappellent pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue, quoi.
Ah. J'ai volontairement laissé Antoine en dernier parce qu'Antoine le dit souvent, hein, c'est pas la phrase la plus heureuse que tu prononces, mais les films sur le deuil, c'est un des sujets que t'aimes voir au cinéma, quoi.
Ouais, bien sûr, bah c'est le deuil et le déni. Tu vois, c'est parce que les deux sont souvent très liés. C'est l'acceptation en réalité. C'est ça qui est un sujet incroyable. Et je trouve que A Ghost Story c'est juste un chef-d'œuvre. Enfin, tout le monde en a parlé. Vous avez dit beaucoup de choses. Je suis d'accord pour dire avec vous que c'est vraiment un objet cinématographique sublime. Et je pense que là, on parlait du contemplatif et du fait de est-ce que le silence permet de raconter une histoire.
Ouais.
Je trouve que c'est le meilleur exemple de la sélection. Vraiment, parce que on n'a pas besoin de paroles, on est avec ce petit fantôme et on le suit, on le voit, et surtout, même s'il a juste deux yeux, je sais pas, j'ai l'impression qu'il exprime des sentiments. enfin, en tout cas, en tant que spectateur, moi, j'ai ressenti des choses en le regardant, et j'ai eu de l'empathie pour lui, et je trouve ça dingue. Alors que, comme tu disais, Fouad, c'est peut-être un peu ridicule, mais moi, je trouve que c'est tellement simple et tellement vrai, en
ouais,
réalité.
Ouais, ça passe.
On n'a pas besoin de plus. Ouais, on n'a pas besoin de plus. C'est ce qu'il fallait, je trouve, c'est maîtrisé de bout en bout. Vous dites que c'est hypnotique, moi, je trouve que c'est juste un chef-d'œuvre de narration. En réalité, c'est plus qu'hypnotique, c'est pas l'image, c'est juste que cette histoire, on a envie de savoir. On a envie de connaître parce que ça part juste du principe simple. Un fantôme, ça reste parce qu'il a encore une chose à faire, peut-être. Et c'est juste que lui, il est emporté.
Casper, hein, pour le coup.
Voilà. Il est emporté par le tourbillon du temps, comme disait Béa, et ainsi de suite. Et qu'on l'accompagne là-dedans et on comprend pourquoi il peut être en colère, pourquoi il peut être ému, pourquoi il reste et pourquoi il persévère, en fait. Et je trouve que c'est criant de vérité sur ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut ressentir de ce que les autres nous apportent et de ce qu'on a envie d'apporter aux autres.
Et il me parle de nous aussi en même temps. Ouais. Il parle d'un fantôme, mais il parle aussi des vivants.
Donc bah
tu peux tout à fait t'identifier dans
bah oui, c'est
dans le destin de ce fantôme, en fait.
C'est une cristallisation des sentiments de l'humain.
Et c'est une belle transition avec ma question d'ouverture sur le film. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le recours au contemplatif est le meilleur moyen de créer une implication émotionnelle du spectateur. En l'occurrence, pour ce film-là, je trouve que oui, complètement. Antoine.
Bah, je suis assez d'accord. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti sur les trois films de la sélection. Vous l'avez dit pour Une vie cachée, que c'était ce qui nous permettait de comprendre la douleur de Franz. que Brad Pitt, même s'il a la voix off, tu vois, tu l'as par tous ces moments de doute. D'errance, en fait, et ces moments que tu passes avec lui dans le silence, dans le calme, à le voir en fait lui tergiversé, perdu. Et là c'est pareil, on est juste spectateur d'un être humain. Et je pense que c'est ça en fait le contemplatif, au-delà des immenses décors qu'on prend pas le temps d'apprécier, c'est qu'on prend pas le temps d'apprécier la nature humaine,
ouais.
Et qu'en fait juste fermer sa gueule parfois, bah ça fait du bien, juste d'observer les autres et les accepter.
Fais gaffe, hein, je peux te donner ce conseil en fin d'émission, Antoine, ne l'oublie jamais. David.
C'était mon intro.
Pour moi, le contemplatif, ça aide, mais je pense que tu pourras jamais faire mieux que les gros violons, les ralentis.
Ouais.
Enfin, vraiment tout le décorum hollywoodien et tout le décorum. Moi, c'est comme ça que je marche. Je l'ai souvent dit, mais
ouais.
Il me faut des gros sentiments pour me faire chialer, tu vois.
Des nazis avec des violons, c'est attachant.
Et oui, je pense que ce n'est que ça finalement, le contemplatif, ce sont les émotions, c'est faire ressortir les émotions, mais plus que les émotions. C'est plus que ça, c'est les sensations, en fait. Moi, je devant des films de Terrence Malick, par exemple, j'éprouve des sensations. C'est-à-dire que je sens le vent, je sens le soleil, je sens tout ça. Je sens, je peux presque toucher...
Comme du 4DX ou quoi?
Non, sauf que je vomis pas. Le 4DX...
Imagine l'horreur à 4DX avec Terrence Malick.
Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est ça.
Le siège bouge pas.
C'est la dimension...
C'est un pour rien.
Tu vois, la musique, tout ça, c'est l'émotion. Mais le contemplatif, normalement, s'il est bien fait, il te fait vivre des sensations. Et c'est ça qui est fort, bordel. C'est ça que j'adore, merde.
Et qu'est-ce qu'on adore parmi les trois films de la sélection de ce soir? Il faut en choisir qu'un, et ça va être compliqué. Allez, je vais commencer par... Attends, je vais essayer de faire un pari. Béa qui... Oh, Béa, je sais pas. Béa, alors.
Ghost Story,
David.
Ad Astra.
Fouad.
Ghost Story.
Tristan.
Je voulais dire Ghost Story, mais du coup, tout le monde le dit. Je vais dire Ghost Story, quand même.
Allez...
A Ghost Story.
Puis moi, je vais dire Une vie cachée, parce que quand même, Mais c'est A Ghost Story qui a le label Parlons Péloche, donc, bah voilà, encore une fois, on aime faire ça.
Attendez pas, quand même.
Faire, prendre, finalement, deux machines pour faire rebattre le cœur, comme on appelle ça déjà, les défibrillateurs, là, et, pour faire revivre un film qui n'a peut-être pas assez vécu en salle.
Et qui n'a coûté que
100 000 dollars.
Mais est-ce qu'on a pris un gros budget pour faire des bons films?
Pas loin.
C'est le budget, café,
draps pris. Mais, effectivement, donc, on vous conseille vraiment de voir ce film, ouais. Ghost Story. On a globalement tous aimé autour de la table, et c'est pas le cas des films de ce soir, même si on avait une sélection, ma foi, pourvue de talent. Passons à quelque chose rempli encore plus de talent, nos références, avec le You Fuck My Wife.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Le You Fuck My Wife, donc après avoir vu trois films contemplatifs récents, nous allons nous intéresser à nos références autour de la table. Lesquelles sont-ce, mes chers amis? Allez, pour une fois, je vais commencer par Antoine, tes références.
Ah, bah je vais tout de suite cramer ce que tout le monde va dire, 2001, l'Odyssée de l'espace.
Évidemment.
Hein, qui est quand même une quintessence de contemplatif. J'avais Tree of Life aussi de Terrence Malick, ouais. Évidemment. Bon, même si j'apprécie pas forcément le film, je suis obligé d'admettre que c'est quand même...
Dans le genre, c'est
quand même une pièce maîtresse.
C'est pas ta référence, mais c'est une référence.
Non, voilà. Après, moi de Terrence Malick, j'aime aussi beaucoup La Balade Sauvage, Badlands, que je trouve fabuleux, mais qui, pour le contraire, a beaucoup plus de rythme, je trouve. Ou du moins, il me touche plus en tant que spectateur. Après, j'ai mis en vrac un peu Into the Wild, que j'ai déjà beaucoup parlé dans les road movies, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Il y a Interstellar, il y a L'Assassinat de Jesse James par Lash Robert Ford, qui est exceptionnel. Oh, pareil, le western, un univers très contemplatif également.
Pour certains, ouais.
Et The Revenant aussi, honnêtement, même s'il y a pas mal de scènes d'action, c'est quand même DiCaprio tout seul dans la nature, quoi.
Et un ours avec qui il a une relation éhontée. Fouad, je suis sûr qu'on va sortir, on va avoir du Tarkovski là, je le sens. Je le sens au bout du nez.
Ça va être plus que ça, c'est-à-dire que tout Terrence Malick et tout Tarkovski. Voilà, je mets ça d'un côté pour l'évacuer.
Comme ça, on s'emmerde pas.
Ce sont des incontournables. Parce que leur cinéma est contemplatif de A à Z.
Ouais.
C'est indissociable. Ils ne font que ça. À la différence de réalisateurs qui vont faire des incursions dans le contemplatif. Je veux dire, le cinéma contemplatif, c'est synonyme de Terrence Malick et d'Andrei Tarkovski. Alors, il faut se taper Tarkovski parce que c'est incontournable. Et c'est incontournable et c'est tout à fait remarquable. Alors, c'est une autre planète. Et c'est ça qui est bon, c'est que ça t'emmène sur une autre planète. Et tous les grands cinéastes ont bu à la source Tarkovski. Vous allez être impressionné par le nombre d'emprunts. Il était en Russie, le mec, et c'était pas un cinéaste grand public. Donc tous les grands cinéastes américains lui ont piqué des trucs à droite à gauche, y compris Blade Runner, ouais. y compris Alien.
C'est ce qu'on dit beaucoup de lui. Et maintenant, il est en train d'être réhabilité, Tarkovski.
Heureusement. Alors,
Tomer Sisley aussi a piqué pas mal.
C'est aride, mais franchement, il suffit juste de s'y mettre et ça passe très très bien. C'est incontournable. Voilà, donc ça, c'est fait. Et Terrence Malick, bien évidemment. Ma préco, on va dire... j'essaie de trouver un objectif rigolo, mais bon...
D'Audelinante.
ça va être deux documentaires du même réalisateur, c'est Baraka de Ron Frink. Baraka, qui est un documentaire entièrement muet, sans parole, sans voix off, avec juste de la musique. C'est un film qui a été tourné en 70 mm. 70 mm, c'est-à-dire le même format que Lawrence d'Arabie. Hein, voilà,
oh, ça,
tout est lié.
Ouais.
Et c'est un film qui a été tourné aux quatre coins du monde. C'est simple. Tu veux présenter un extraterrestre, c'est quoi l'espèce humaine? Et tu lui montres Baraka et il va découvrir les êtres humains. Il va dire, tiens, ah ouais, ok. Et c'est absolument remarquable.
Notre idée de film, Tristan, si on devait présenter le cinéma à des extraterrestres?
Le dîner de cons.
Ah ok, bonjour, je serais allé vers du mobilier.
C'est un peu soufflant.
Le placard.
Il est génial. Et le même réal a fait une suite qui s'appelle Samsara, qui est une espèce de suite qui est très bien aussi. Ce qui est remarquable avec ces films, c'est leur ambition visuelle. Tu en prends plein la gueule.
Plein les mirettes.
Plein les yeux. Ça te éclate les yeux tellement c'est magnifique. Et c'est incontournable. Et c'est du sans parole, sans commentaire. C'est que de la musique et des images. C'est absolument sublime. Donc Baraka et Samsara.
Tristan, Fantasia sûrement.
Fantasia, oui, non, mais moi j'ai forcément 2001. Tout le monde en a parlé avant moi, mais moi c'est un des films que j'ai découvert au cinéma, pas à l'époque du coup, mais quand il est ressorti, je l'ai revu. Dès qu'il passe au cinéma, j'essaye d'aller le revoir. Je ne l'ai vu qu'au cinéma. C'est 25 premières minutes sans parole, donc ça c'est. Déjà, ça te met dans l'ambiance, quoi. Pour le coup, c'est vraiment du pur contemplatif. Et je vais faire aussi une reco à la Fouad, contemplatif incontournable, la trilogie des Katsi, de, j'ai pas son nom sous les yeux, c'est
James Hutt,
Godfrey Reggio.
Ah non.
Donc il y a Koyaanisqatsi, Powakatsi, Nagoyatskatsi. Film, trois films documentaires. Incontournable, tourné en 70 mm. Non, non, c'est vrai. En fait, c'est un peu comme Baccarat et
Baccarat
là. Non, non, en fait, c'est exactement pareil. Pourtant, je me suis retrouvé. Hein. C'est, si tu veux montrer l'espèce humaine à un alien, tu lui montres Koyaanisqatsi. C'est sur une musique de Philip Glass. C'est mais que c'est génial, c'est ouf. C'est que des images de d'usines, de technologies, de tournées en accéléré avec une musique de Philip Glass derrière, c'est magnifique. Ça dure à chaque fois une heure et demie. Les trois ont été tournés sur 30 ans d'intervalle, je pense. Et j'ai redécouvert cette composition de Philip Glass en live, mais c'est incroyable. Et ces films documentaires sont magnifiques. J'ai noté aussi There Will Be Blood de Peter Anderson.
Ah oui, ouais, carrément.
Énorme fresque contemplative sur un forage de pétrole aux États-Unis. Apocalypse Now, que j'ai découvert au ciné, qui est aussi magnifique de contemplation. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'avais écrit Drive aussi, mais...
Bien sûr, grand Drive.
Un peu moins, mais un petit peu quand même.
David Marmignon.
Take Shelter, un film de Jeff Nichols de 2011, avec Michael Shannon et Jessica Chastain. C'est un film qui me retourne à chaque fois. C'est une étude de la folie hallucinante. Il y a une beauté formelle, une beauté naturaliste, et le final est juste fou, avec une musique sublime, bouleversante. Et je pourrais dire exactement la même chose avec The Fountain, mais est-ce que The Fountain est un film contemplatif? Je ne sais pas.
Moi aussi, il est classé mais, là-dedans.
Et pareil, The Fountain, c'est vraiment le genre de film, ça passe ou ça casse, et je vais le regarder une fois, je vais trouver ça formidable, et je vais le regarder une deuxième fois et je vais me dire qu'est-ce que c'est que cette croûte, mais c'est ça qui fait les grands films.
Est-ce que tu as vu The Femme Fontaine, David? Ah, tu peux pas répondre là.
J'entends pas très bien, j'ai manqué quelque chose. Non,
moi j'ai vu The Bataille, je vais aller avec.
Antoine a dit The Bataille et Fontaine.
Non, mais du The coup, voilà, puis après les références que vous avez tous dit. 2001, je vais rajouter la ligne rouge chez Malik.
Ah oui.
Et puis, il y a quand même des grands films hein, là-dedans.
Effectivement, et alors Béa, est-ce qu'elle va en trouver d'autres? Parce que voilà, je t'ai volontairement fait passer en dernier, t'as dû enrayer par pelleté.
La ville amour les vaches.
Pas tant, parce que j'ai des films contemplatifs, peut-être un peu différents de ceux que vous avez cités, puisque vous avez cité beaucoup de Terrence Malick, tout ça, voilà, chose. Donc on avait bien compris que c'était pas trop mon cinéma. Moi, celui auquel je pense tout de suite, typiquement le film que je ne voulais pas aller voir au cinéma parce qu'on m'avait dit « Oh, tu verras, chaque plan est un tableau », et je m'étais dit « Oh là 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 là, je veux pas aller voir ça ». J'y suis allée, et « In the Mood for Love » de Wong Kar-wai. J'adore ce film, mais vraiment, je le trouve... effectivement, chaque plan est un tableau, c'est somptueux, il y a la musique, il y a cette histoire d'amour, j'adore ce film. Après, j'aime beaucoup aussi, alors, Danse avec les loups de Kevin
Costner. Oui.
Pour moi, c'est le savant mélange du contemplatif et en même temps d'une épopée, enfin d'une fresque. Enfin, j'aime beaucoup ce film. Mélancolia de Lars von Trier.
Ah oui.
Que j'ai vu qu'une fois, donc peut-être il faudrait que je le revoie, mais en tout cas à l'époque quand je l'avais vu au cinéma. J'avais été assez on parlait de d'hypnotisme, mais après j'aime beaucoup Lars von Trier, donc ça a dû jouer. Mulholland Drive de Lynch, je pense qu'il peut rentrer là-dedans aussi. Je peux pas dire que je pense que Mulholland Drive, j'ai dû le voir 7 ou 8 fois et chaque fois je comprends autre chose.
Ouais.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas trop quand la voix off veut m'expliquer les choses, et c'est pour ça que finalement les films, alors à part Danse avec les loups où finalement il y a une voix off, mais sinon j'aime
assez. C'était l'époque où ça le faisait aussi d'avoir une voix off.
Oui, non mais j'aime bien ces films, et Lynch le dit très bien, il le dit, j'ai pas besoin d'expliquer, les gens ils verront ce qu'ils ont envie de voir.
Oui, on a bien compris.
Et je mettrai un petit
d'air. Il avait compris.
De quoi? De quoi?
Il l'a bien compris, ça.
Oui.
Qu'on pouvait laisser les gens un peu libres.
Oui, ben moi, ça me plaît.
Ouais.
Et enfin, je rajouterais Her de Spike Jonze, que je mettrais quand même aussi dedans.
Pas faux.
Je sais pas si c'est... Si ça peut rentrer, ah ouais. Mais...
Ça rentre volontiers.
Ah, et j'en ai oublié. Je peux.
Une remarque, David ?
Je suis en train de me bouffer la bouche, là.
J'en ai oublié un.
Fouad en a oublié un. Juste et un. Il est déprimé, vas-y.
Vite fait, Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. C'est formidable. C'est un putain de trip.
Moi, je suis vraiment pas rentré dans ce film.
Ah, moi, je suis rentré dedans à fond, la caisse. C'est un vrai trip. C'est un... Peut-être que tu vas pas aimer, mais vraiment, regarde-le. Ça raconte une extraterrestre, en fait, qui arrive sur Terre. Et c'est un vrai trip, tu vois. C'est vraiment... J'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai vraiment kiffé. Under the Skin.
Un extraterrestre qui est arrivé sur Terre, on n'en a pas, mais un mec un peu farfelu qui est arrivé dans ce podcast, c'est Antoine. Il y a déjà plus de 80 émissions qui m'a dit hey, « Frère, j'ai une chronique. » Et j'ai fait « Eh bah trop bien !» À l'époque, je ne pesais pas le poids de mes mots. 80 émissions après, il est toujours là pour le pilule bleue, pilule rouge.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
C'est parti, alors Antoine, j'ai envie de dire de toute façon, nous ça fait déjà pas mal d'émissions qu'on contemple le truc sans trop savoir quoi faire, donc c'est finalement ce genre doit te parler pour cette chronique. Antoine, qu'as-tu décidé de faire aujourd'hui pour nous amuser, pour amuser la galerie?
Ouais, il a pris Ratatouille et Small Soldiers.
Eh bien, c'est très simple, chers amis. Comme tu as dit, Thomas, ça fait 80 émissions que vous contemplez cet accident de train qui est ma chronique.
Ouais.
On sait que le contemplatif, c'est avant tout du silence.
Ouais.
Je vais donc faire une intro en silence.
Ah.
Ah, c'est bien ça, ça change.
Bon, en fait, j'y arrive pas trop.
C'est peut-être ta meilleure. Hein.
Et je sens tout le poids de ma chronique qui tombe en lambeaux et que vous avez préféré en fait du silence à la fin du podcast. Et donc, je vais tout de suite... commencer par vous expliquer le principe du pilule bleu, pilule rouge. J'ai eu envie de remettre un silence, je suis navré. Ça va me prendre comme ça, je contemple. Le principe est très simple, j'ai choisi deux films, et ces deux films sont Tree of Life The Revenant.
Bon.
Qui sera juste Revenant, hein. Je prends pas les articles, Tristan.
Okay.
Donc le principe est très simple, j'ai fait des jeux de mots à partir des titres de ces films, en mélangeant leur synopsis avec... Pardon, je remets des silences. Important, c'est
un
terzé d'attention.
Ouais.
Mon but, c'est d'hypnotiser les gens. Et l'avantage, c'est que vous ne savez pas si j'ai un blanc. Alors,
c'est vrai que c'est pas mal comme.
Mais comme oui, tu vois. Donc le principe, donc j'ai.
Mais Thomas,
avec...
comme c'est un excellent monteur, après il va couper, tu sais, tous les.
Il y aura plus de.
Il y aura plus de silence.
Il y aura plus de concept. Plus moi j'y vais comme un bourrin.
Ça sera juste votre chronique de merde.
Voilà.
Pour mettre du rythme. Alors pour rappeler, Tree of Life, c'est Brad Pitt qui éduque sa famille à la dure et ça tourne mal. Et ouais. Revenant, c'est DiCaprio qui éduque un ours et ça tourne mal.
Ça promet.
Alors.
Ça devrait s'arrêter là en fait, cette chronique.
C'est le meilleur truc. Alors c'est DiCaprio qui éduque des ours à Tokyo avec un Gaspard Noé sous acide.
Ah ben en plus j'ai pas raté de
dire. The Revenant. Non.
Non.
The Voinant.
Non.
Revenanter the Void.
Revenanter the Void. C'est bonne réponse de Thomas.
Désolé, Flash, c'est volé.
Et t'es costaud celle-là.
C'est Brad Pitt qui éduque sa famille après une cuite énorme à Las Vegas.
Tree of Life, Vegas Parano.
Very bad trip of life.
Very bad trip of life.
Ouais.
Ouais,
mais
ils
je sais pas.
Se mâcher un peu.
Bah ouais.
Bah, Tree of Life, c'est pas mieux que.
Trip of Life. Non,
non
mais
tout est nul.
Tree of Life de Gasparano, je l'admets, il est très très bien.
Très très bien, bah, peut-être pas non plus.
C'est DiCaprio qui éduque des fourmis à la dure pour faire un braquage avec Paul Rudd.
Revenant Man,
facile.
Ah oui, efficace.
Très
bien.
C'est Brad Pitt qui éduque sa famille et envoie sa fille en école de photographie. Celle-ci se rend compte après quelques semestres qu'elle peut remonter le temps. Ah. Il s'agit d'un jeu vidéo.
Ouais, je l'ai. Life is Strange.
Tree of Life is Strange.
Tree of Life is Strange, la même réponse. Tristan.
Voilà.
Et un petit dernier, c'est DiCaprio qui, même s'il a gagné un Oscar, parce qu'il a joué avec un ours, il trouve que c'est quand même vachement mieux, et il est vachement plus fier d'être dans la chronique du fin de ce jeune animateur de Parlons Péloche, qui possède un prénom délicat.
Revenez Antoine.
Revenez Antoine.
Ah, pardon, j'ai dit le nom de famille.
J'ai dit le nom de famille.
Ah. Vas-y, refais-le.
Revenez Antoine.
Eh oui, c'est moi. Parce que dans ce milieu, comme l'a dit Thomas, parfois faut savoir se jeter des fleurs.
Bah moi, je t'en balancerais bien en travers de la gueule. Bah voilà. Merci Antoine pour cette chronique qui aura eu au moins le mérite d'être courte, contrairement à la sélection qu'on a eue aujourd'hui qui était, ma foi, je vous ai fait pour le coup poser une semaine entière de vacances pour préparer cette émission qui a connu des remous, vraiment on est passé par tous les stades.
Si je peux préciser, non, tu nous as pas offert une semaine de vacances, t'as mis le pays en 2 mois de confinement.
Ouais, voilà, j'ai fait ça, je dis c'est le moment idoine pour parler des films contemplatifs. On est tous un peu énervés là, parce qu'on a un petit peu galéré, mais on l'a fait pour vous, on compte sur vous derrière vos écrans, donnez au Téléthon minuit tout le tintouin. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux de podcasts classiques. Déjà sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur les applis de podcasts. On est sur Podcast Addict, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Un jour, je saurai le meilleur dresseur sur Castbox. On va se retrouver dans 15 jours avec, j'espère, moins de remous, tout ça, pour un autre thème, un autre genre cinématographique. On a passé un bon moment avec vous et entre nous, je pense. Et écoutez, on espère que dans 15 jours, mais ça me paraît un peu prématuré, on pourra se choper à nouveau dans les salles obscures. En attendant, on se dit au revoir. Au revoir.
Au revoir. Salut.
Bah voilà, une émission qui s'est passée sans heure.
Moi, j'adore quand un plan se déroule sans accroc.
Ah oui,
8 heures, 3 fichiers chacun.
23 heures.
Ah ouais, pas mal. Pas mal. Elle a intérêt d'être bien, cette émission. Elle sera pas dans les offs. Hein. Ah. Non.
J'espère que, bon, là, il y a un bruit, mais bon, ça va. Le bruit, on l'entend plus dans nos oreilles que dans le micro, on est d'accord?
Moi, je te rassure, Thomas, j'ai les chiens d'à côté qui aboient, mon chat qui fait des conneries, et à un moment, il y aura Arthur. Donc,
Bah, t'es viré. Schlack! Hop! Bon, bah, les amis, on va démarrer cette émission. T'imagines, on aurait pas un mec aussi talentueux que moi pour faire ça. Bah, c'est ça démarrait comme ça, ce podcast. Ce serait c'est bon. Vrai. Alors, aujourd'hui, on va parler donc des films contemplatifs. Écoutez. On s'est dit que on allait prendre 3 films récents et pour voir ce que c'était devenu le cinéma d'aujourd'hui. Mais là, il y a Thomas Dezer et c'est ce qui fait toute la différence. On va démarrer l'émission. Dans ce métier-là, si on se fait pas de compliments, personne nous en fait. Bah, on en est
tu
là.
Tu sens ou pas qu'il y a un truc qui s'est cassé entre nous deux, Thomas?
Non, le mec qui s'est cressé off, quoi.
Je fais plus trop rire, en fait.
C'est terminé. Voilà, d'ailleurs, t'as eu un texto de Bernard, non, Tristan?
Ah ouais, ah ben bien sûr, j'ai répondu.
Ah, ça fait plaisir. Le contact est renoué.
C'est qui, Bernard?
Mon père.
Ah, d'accord.
Et alors, comment on fait pour avoir un message de ton père?
Bah, je donnerai ton numéro. On va clapper à 3, 2, 1, 0, d'accord?
Ok.
3,
ah, oui, ton
2,
père.
1, 0. On n'est pas tous sur le même fuseau horaire, mais bon. Alors,
c'est parti, mon kiki.
Ah, mais j'aime bien ce lancement. 3.
Ça marche toujours. Hein,
ah
ça.
Oui. Hein. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1.